Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast pour ce deuxième épisode de la semaine spéciale radio. Et aujourd'hui, je reçois François Fortin, l'animateur de C'est quoi déjà depuis plus d'une vingtaine d'années et 25 ans de carrière. Félicitations pour ce bel exploit, François. Et puis, oui, j'ai la chance de vous présenter un animateur radio vraiment ultra sympathique aujourd'hui. On va en apprendre davantage. C'est un très long podcast quand même. C'est supposé durer une heure. Ça a duré plus de deux heures. Fait que on le savait, François a beaucoup de jasette. C'est un animateur que j'avais très hâte d'en apprendre davantage sur sa vie, sur qui il est vraiment. Parce que, comme vous le savez, on écoute à chaque jour la radio, mais on n'en connaît pas tant que ça sur les vrais animateurs radio. Je ne parle pas nécessairement des gens qui sont humoristes ou tout ça, qui font de la radio. Des fois, on a entendu parler plus de leur vie. Mais des vrais animateurs de profession, on n'a pas nécessairement d'informations sur qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie, leurs intérêts, leur champ d'expertise et tout ça. Ça fait vraiment du bien de les recevoir au podcast et de pouvoir jaser avec eux de tout, de rien. Et François, j'ai découvert un passionné de sport, tout comme moi, comme vous voyez présentement, avec mon décor. Et puis, ça a été vraiment une rencontre exceptionnelle que j'ai faite avec lui. Un gars d'une générosité incroyable. Écoutez, vous ne le voyez pas tout le travail qu'il y a derrière le podcast, là, mais ça a été, disons, le podcast qui a été un peu plus compliqué que d'autres à faire. On a commencé à le faire sur sa tablette. Et puis, ça n'a pas été évident au départ avec la tablette. Là, le réseau n'était pas super bon. Donc, on a dû recommencer une autre journée, c'est-à-dire que l'entrevue a été au départ le lundi. Et là, on est présentement le mercredi. Donc, ça a pris deux jours avant qu'on se trouve à être disponibles les deux en même temps. Et François a quand même accepté à nouveau de refaire l'entrevue comme il faut. On a recommencé du départ parce qu'on avait déjà un 15 minutes de fait. Et puis, il m'a même appelé au départ pour qu'on jase du podcast, voir à quoi s'attendre un peu. Tu sais, quelqu'un qui fait les choses comme il faut, soucieux des petits détails. Ça, j'adore ça, des gens comme ça avec qui travailler. Écoutez, c'est vraiment, j'ai des gens très généreux qui font le podcast jusqu'à maintenant. Mais d'avoir des gens comme lui, Hugo Dubé d'ailleurs, qui a été comme ça aussi, m'avait appelé pour qu'on en jase avant. Tu sais, les gens aiment ça, s'impliquer, faire les choses comme il faut. Et vraiment, ça a été une rencontre exceptionnelle que j'ai faite avec François Fortin. Je vous dis, ça a été quelqu'un pour moi que j'ai beaucoup apprécié comme animateur de radio depuis que je suis tout jeune, je l'écoute. Anciennement au 6 à 6, ça c'est quoi, comme vous vous rappelez, t'sais, les meilleurs hits, les 6 gros hits de l'heure présentés à chaque jour à C'est quoi, à 6 heures, bien sûr. Et puis, François Fortin a été l'animateur pendant plus de 10 ans, 11 ans à peu près précisément, de ce show-là. Et puis, toujours à Radio Hollywood les week-ends avec Frankie Hollywood Fortin, de son surnom, bien sûr. Donc, vous avez la chance de l'écouter chaque semaine sur les ondes du 96.9 C'est quoi. Et comme il dit, C'est quoi pour lui, c'est sa famille. Ça coule dans ses veines. C'est vraiment, il carbure avec le 96.9 C'est quoi. Il est prêt à tout faire pour ses coéquipiers. C'est vraiment inspirant de l'écouter, d'être autant passionné de radio que ça. C'est un passionné de son métier. Je veux recevoir des gens passionnés pour vous inspirer au podcast. Et puis, écoutez ce podcast-là. Je vous dis, même s'il est deux heures, ça vaut le détour pour vrai. Écoutez-le en plusieurs parties au pays. Je vous le dis, c'est du bonbon. C'est vraiment du bonbon. Extrêmement passionnant à écouter. Vraiment intéressant. Je vous dis, il y a des points là, sur plein de choses. Il fait réfléchir. Moi, il me fait réfléchir personnellement. J'espère que ça va vous faire réfléchir positivement, bien sûr. Ça fait juste nous poser des questions, tout ça. Puis vraiment, c'est quelqu'un de très, très, très inspirant. Alors, ça fit avec le podcast des parcours 100% Made in Québec, une semaine spéciale radio. Radio François Fortin, c'est quoi? C'est vraiment, les liens sont parfaits et surtout de vous inspirer à réaliser vos rêves. Et quand on reçoit quelqu'un qui a plus d'une vingtaine d'années en ondes au même poste, wow, c'est vraiment inspirant. Alors, merci beaucoup, François, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, oui, on va parler de sport, de radio, bien sûr, des anecdotes. On va parler de Lady Gaga, à quel point qu'ils se connaissent bien, que vraiment qu'ils ont contribué, c'est quoi, à la carrière, à la découverte de Lady Gaga. J'avais oublié ce bout-là, vraiment, c'est très intéressant. On a parlé des Cranberries aussi, de la belle relation qu'il y avait avec Dolores, la chanteuse des Cranberries, avec François Fortin. Super intéressant, ça aussi. On parle d'artistes ici est là, naturellement, là, vous le savez bien, c'est un animateur radio. Faut parler de musique un peu. On parle de sport aussi. Pour les fans de sport, vous le savez, ça revient régulièrement dans le podcast. On a parlé du circuit de Barry Bonds pour battre le record de tous les temps de Hank Aaron lors du 712e circuit en carrière de Barry Bonds. Et là, vous dites, oh, tu sais, tu t'en vas avec ça. Effectivement, ça s'est en allé de gauche à droite, le podcast, mais c'est la beauté d'un podcast. C'est jamais toujours la même chose. On peut s'en aller sur une question et ça s'en va à gauche à droite. Et oui, on a parlé du circuit de Barry Bonds. Pourquoi? Parce que la sœur de François Fortin habite à San Francisco et puis elle avait obtenu une paire de billets pour être à ce match-là. Wow, il était dans les gradins de gauche pour attraper la balle du circuit de Barry Bonds. Incroyable. Mais il ne l'a pas attrapé, bien sûr, mais quand même, l'anecdote vaut la peine d'être écoutée. C'était très, très drôle et vraiment, ça fait rêver tous les fans de balle. Là. Vraiment, là, wow, ça a dû être incroyable comme histoire. Et puis, oui, on a jasé de sport du Canadien ici et là, un peu partout dans le podcast, parce que François, c'est un maniaque de sport, comme moi, écoute Sport 30 tous les soirs, 5 à 7, RDS. Ça a été vraiment le fun de jaser de sport avec lui, rafraîchissant comme toujours. Et puis, oui, on a parlé aussi de la belle épopée des boîtes de nuit, où il y avait des animateurs radio, on pense dans les clubs comme La Boom, tout ça, tu sais, qu'il y avait des animateurs radio qui faisaient terminer leur quart de travail à la radio et par la suite aller animer dans les clubs en direct, à la radio aussi. Ça, on pense à MC Mario aussi à 95.9. Et François l'a fait dans le temps aussi. Donc, c'était le fun de jaser de ça. L'époque a changé, mais c'était des beaux souvenirs. C'est vraiment des belles anecdotes qu'on a eu la chance d'entendre. Et je vous dis une anecdote sur Jerry Boulet que je ne m'attendais pas à avoir aujourd'hui. Très, très, très intéressant sur la vie personnelle de François qui a un lien avec Jerry Boulet. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse le découvrir dans le podcast. Ça devrait être au tout début quand même. Là, c'est donc vous n'allez pas devoir patienter trop, trop longtemps pour l'entendre, mais on en parle un peu plus tard en détail aussi. Vraiment, ça m'a donné les frissons. C'est une très, très belle anecdote. Wow! C'est des belles confidences qu'on apprend aussi au podcast. Les gens sont à l'aise. Tu sais, François, il était à l'aise. J'avais l'impression que c'est quelqu'un que je connaissais depuis toujours. Ça a été quelqu'un que j'ai appris à découvrir, comme vous, dans le podcast. Mais plus que le podcast avançait, comme avec plusieurs autres gens que j'ai reçus, on devient plus à l'aise, on devient plus naturel. Et puis, ça a été vraiment ça qui s'est produit avec François. Une chimie qui s'est installée tout au long du podcast et qui s'est allé en s'améliorant, bien sûr. Écoutez, on aurait pu continuer encore pendant des heures, mais il y a toujours une fin, comme on dit. Alors, je vous souhaite vraiment une excellente écoute du Made in Québec podcast pour l'épisode numéro 2 de cette saison, cette deuxième saison du Made in Québec podcast. J'espère que vous l'appréciez jusqu'à maintenant. On a reçu Sébastien Trudel et je vous dis tout de suite en primeur, lors du troisième épisode, on va recevoir Richard Turcotte. Alors, à ne pas manquer, deux très, très bons épisodes, celui-ci et celui de Richard Turcotte qui s'en vient. Et si vous n'avez pas écouté celui de Sébastien Trudel comme premier épisode, allez l'écouter. C'était génial aussi. Très heureux de pouvoir vous présenter cette semaine spéciale radio. Alors, bonne écoute tout le monde du Made in Québec podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast pour l'épisode numéro 2 de la semaine spéciale radio de cette deuxième saison, ce début de deuxième saison. Et puis, comme vous le savez, j'ai reçu Sébastien Trudel dans le premier épisode. Et dans le prochain, je vous le dis en primeur, je vais recevoir Richard Turcotte pour ceux qui sont déjà intéressés de voir le prochain épisode de la semaine spéciale radio. Et puis aujourd'hui, François Fortin, qui est l'animateur Radio Hollywood la fin de semaine, déjà depuis 25 ans de carrière. C'est exceptionnel sa carrière. Je suis tellement heureux de l'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup François de faire partie du podcast.
Ah, ça me fait plaisir. D'ailleurs, tu as reçu Sébastien Trudel hier. C'est moi qui ai lancé sa carrière à Sébastien.
Ah oui, écoute,
on a travaillé ensemble à l'époque.
Vous avez pas mal le même nombre d'années, c'est pour ça que je dis ça.
on a fait le retour à la maison ensemble à C'est quoi, avec les Justiciers Masqués à l'époque.
Oui, je m'en rappelle.
D'ailleurs, on a été nominés pour 10 de l'humour de l'année 3 fois. Hey, les gars étaient...
J'en ai un.
Oui, t'en as un. C'est avec le sketch de Batman et Robin.
Exact. Le sketch de Batman et Robin. Puis, ouais, c'était... Eh ben, il y en avait des niaiseries là-dessus, là, mais celui-là.
C'est
bon. Dans le Bat-Spa et la Batmobile, c'était légendaire.
Batman et Robin avaient une certaine attirance l'un envers l'autre.
Oui, c'était. Ouais. Je ne sais pas si ce sketch-là passerait en 2020, pour être honnête, mais il y avait beaucoup de connotations.
Ouais. Ouais. Il y a bien des choses qui passeraient encore, mais qui seraient dites différemment.
C'est vraiment ça. Il y a beaucoup de choses qui ne passeraient pas aujourd'hui, qui passaient, mettons, dans les débuts des années 2000. Puis, d'après toi, justement, le temps qu'on en parle, est-ce que tu penses que les Justiciers masqués, j'ai posé la même question à Sébastien, mais penses-tu que les Justiciers masqués, dans les années 2020, ça serait possible à la radio?
Comme on le faisait il y a 20 ans, non. Mais je sais pas, remarque, Sébastien, je pense pas qu'il est devenu plus mature avec le temps.
Il a changé un peu quand même.
Je fais des blagues.
C'est plus fort que lui. C'est encore en dedans de lui. Là. Il y a un petit côté de la belle.
Pierre Trudel, son père, qui a animé le sport longtemps, entre autres avec Mario Tremblay, ça a été pour moi aussi un bon mentor, un bon coach. C'est quelqu'un d'extraordinaire, le père de Sébastien. Je salue d'ailleurs s'il regarde ton podcast, Antoine, sur la radio. Pierre Trudel, c'est un monument de la radio aussi.
Encore plein de records à la radio. Ouais. Il me disait ça, Sébastien, le plus grand nombre d'émissions consécutives de ligne ouverte, je pense. C'est incroyable. Là. C'est des choses. Il a tellement été là longtemps. Moi, c'était vers la fin, si on veut, de sa carrière. Je l'ai connu. Ouais. Mais mes parents m'en ont parlé. Puis c'est vraiment quelqu'un qu'on a beaucoup entendu parler malgré tout.
C'est un gentleman. Toi qui aimes le sport autant que moi, je te dirais que des gars de sport, Mario Tremblay, c'est un gentleman. C'est tout un orateur. C'est tout un conteur. Ron Fournier, c'est tout un conteur.
Oui, Ron Fournier, j'aurais tellement aimé l'avoir.
Un gentleman aussi, appelle-le, je suis certain que ça lui ferait plaisir.
Oui, c'est plus son état de santé en ce moment. J'aime mieux le laisser tranquille un peu. Là. Je sais que c'est pas des temps faciles pour lui, fait qu'on le salue s'il écoute.
il est fait fort. C'est toute une pièce d'homme. Je suis certain qu'il va bien s'en remettre, Ron. Puis l'année prochaine, ce sera un bon moment pour toi de jaser de sport.
Ça serait le fun.
Popé.
Exact. Pierre Trudel a été un monument de la radio, puis exactement, dans le fond, toi, ça a été une inspiration pour toi. Là.
Il y a beaucoup de gens qui ont été des inspirations. Je dirais Denis Fortin, ça a été une inspiration. Ouais. W, ça a été une inspiration. C'est quoi, moi, quand j'ai entendu « C'est quoi » la première fois à 6 ans, c'est drôle parce que mon père, c'est un ingénieur, mais deux maîtrises, un doctorat. Il voulait que je devienne fiscaliste, tous des jobs de même. Là. Puis quand j'ai annoncé que je voulais faire la radio, parce que pour moi, c'est quoi, à 6 ans, je m'en souviens, avec mon gros radio sur mon balcon. on parle souvent du plaisir des sens, du plaisir dans la vie. On l'oublie souvent, mais le plaisir de voir quelque chose de beau, de goûter quelque chose de bon, d'entendre une bonne chanson. Tous ces petits plaisirs-là de la vie qu'on peut prendre pour acquis des fois, la radio, ça me procure encore ce grand plaisir-là. D'entendre un bon micro, une bonne intervention à radio, quelqu'un qui me conte une bonne histoire de la bonne façon, avec un sens de la punch. Livraison en français, du punch. Je trouve ça encore extraordinaire et il y a un travail constant là-dedans. J'essaie d'y arriver et de me renouveler année après année après année. Je me souviens encore, quand j'étais jeune, à 18, 19 ans, je prenais des cours de diction, puis je travaillais au golf de Boucherville, puis je faisais ma diction sur le tracteur en coupant le gazon, les tours de green, là. A-E-I-O. Tu sais, pour être bon. Mais je me souviens aussi du style d'animation quand j'ai commencé, c'était très OK, all right, non.
C'est ça.
Et moi, je voulais plus faire une animation, parler aux gens, parler au monde. Exactement. Et ce style de radio-là n'existait pas avant que j'arrive. Puis, je le dis bien humblement, mais j'ai fait ma place grâce à ça, en imposant ma façon de faire la radio.
Tu as changé le style de la radio, là. Tu as vraiment apporté une touche qu'aujourd'hui, c'est vraiment que de ça. Il faut connecter avec son public. Ça. Puis toi, vraiment, t'es ton public t'appelle, tu leur écris, tu es vraiment toujours en contact avec eux. Puis, je pense que c'est important pour toi.
Oui, je pense que j'ai été un des précurseurs de ça et je suis content quand j'entends d'autres animatrices, d'autres animateurs de radio faire ce genre de radio-là. Ça me ramène loin en arrière, mais il y en a bien qui ne savent pas que je fais partie en tout cas, des premiers à avoir fait ça. Mais c'est un beau métier où il faut se renouveler à chaque fois. Je me souviens, moi, j'ai commencé sur une console avec trois roulettes. Hey, ensuite, on va se voir, c'est ça, avec une autre grosse console après, des CD, l'ordinateur. Tu sais, il faut être ouvert au changement aussi, ouvert au bon coaching. Être comme un sportif aussi, être, puis ça, je le dis à tout le monde, là, être imperméable à la critique. Parce qu'il y a des gens.
C'est pas évident, là.
Ben, moi, je le prends toujours comme un. Ça dépend. Il y a des critiques constructives, mais il y a des
critiques. Il y en a
qui
sont plus faciles que d'autres à entendre.
Ouais, il y a des critiques gratuites, mais c'est drôle parce que sur 100 messages, on va recevoir 99 compliments et un commentaire méchant. Mais moi, je suis vraiment imperméable à ça. Je me dis, comme un joueur du Canadien de Montréal, un sportif, hein, sérieux, là. Merci, man. Tu m'as donné du temps. Tu as pris le temps même de me critiquer. Waouh, c'est quelque chose pareil. Non, quand même, tu te dis parfait, cool, hein, un beau compliment dans le fond.
Ben oui.
Ça ne veut pas dire que je vais te répondre, mais je vais répondre aux 99 autres qui m'ont fait un petit compliment, par exemple.
Exact.
Tu vas donner du temps à eux autres. C'est un peu ça aussi, la radio, c'est donner du temps aux gens.
Oui.
C'est le fun, l'écoute, se donner du temps. C'est ma femme, c'était une auditrice de C'est quoi? J'ai marié une auditrice.
Ah, OK. Tu la connaissais pas avant, dans le fond.
Je la connaissais pas. Elle m'appelait C'est quoi? On est là. Il se trouve à être la petite fille à Jerry Boulet, Offenbach.
Pour vrai?
Oui.
Ah, je n'étais pas au courant pantoute. Hey boy, OK, c'est spécial. Ça.
Ça me prenait quelqu'un qui avait ça dans ses gens, capable de mentionner.
Pour vrai, attends, parenthèse, faut que je te dise. J'ai écouté le film Jerry la semaine passée avec ma conjointe, justement. Puis à la fin du film, ben là, ça, on apprend que Jerry avait deux enfants, dans le fond, Justin, puis une fille. Puis, ben, la fille qui est aujourd'hui ta conjointe. Mais là, c'est le coup, on a dit, hey, j'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, je connais un peu Justin, ben, je sais qu'il a refait une tournée hommage à son père. Puis, tu sais, j'ai dit, c'est. Ma blonde disait, elle dit, à quoi qu'il ressemble? J'ai dit, fou, je ressemble à son père, c'est effrayant. J'ai dit, regarde, je vais te montrer des clips sur YouTube. Fait que j'ai montré ça. Ben, je me demande à quoi qu'il ressemble sa fille. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai jamais entendu parler d'elle, mais j'ai dit bon, tranquille, j'imagine, mais je savais pas que c'était ta conjointe.
Il y a trois enfants.
Ah, okay.
J'ai oublié trois enfants avec deux avec Denise et François, une autre fille avec François.
Oui, celle qui avait rencontré en France, oui.
C'est ça. Bon, pour faire une histoire courte, mais non, Justin, moi j'en ai vu des gens interpréter Jerry Boulet. Justin, c'est hallucinant comme c'est bon. Là. Oh, il est bon. Ben, je trouve que physiquement, il ressemble à Steven Tyler d'Aerosmith.
Oui, c'est un mélange. Ouais. Ben, tu vois que c'est son père aussi, là, c'est évident.
Surtout quand il se met des beaux leggings en léopard, là, comme Steven Tyler, là, il ressemble encore plus.
Oui, il est grand pareil aussi.
Ça prend des grands leggings.
Oui, ça doit faire des beaux parties musicales dans le temps des fêtes. Il doit y avoir des réunions, ça parle de musique en masse, j'imagine, surtout que quand même un peu un passionné.
Oui, j'adore la musique et l'auditoire me fait vivre, mais la musique aussi me fait vivre. Donc, je vis de plusieurs passions communes. J'adore le monde. Moi, j'aime parler avec les gens, j'aime rire. Je suis un bon vivant, comme on dit, mais oui, pour revenir à ta question, oui, ça parle de musique. D'ailleurs, Justin, à notre mariage, nous a fait quelques chansons. Et moi, la toune que je voulais qu'il fasse, c'est « Faut que je me pousse ». Je ne sais pas si vous avez entendu « Faut que je me pousse » une couple de fois dans vos vies. C'est une sacrée belle toune.
Mais quand
il m'a fait, je pleure à chaque fois. Oui, ça m'arrive de pleurer des fois. Mais c'est comme, je voulais qu'il me la fasse parce que je trouvais que je quittais mon ancienne vie un peu de nightlife, de ci, de ça, pour marier la femme la plus extraordinaire au monde que j'aime de tout mon cœur. Ça fait 12 ans, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble. Ça va super bien, tu sais. Oh, ouais,
12 ans.
Ouais, je pense que c'était le premier chicane, c'était hier soir.
c'est le fun.
Non, on ne chicane pas, on communique.
La communication, toujours, c'est la clé.
Et il y a la façon de communiquer. On se parle. On s'insulte jamais, on se parle toujours bien, on s'attaque pas, par exemple. On va pas se dire un reproche. Ah, t'as pas fait la vaisselle. Non, non. C'est, hey, chérie, ça serait le fun qu'on fasse la vaisselle. C'est une façon de dire les choses dans la vie.
Exact.
Parce que c'est normal, si t'attaques quelqu'un avec des mots, c'est normal que la personne soit sa défensive puis sorte la mitraillette à mots aussi. Alors, tout ça fait partie de mon cheminement de radio et elle aussi est comme ça. C'est un grand cœur et c'est un peu. Moi, je fais ce style de radio-là aussi. Je critique pas le monde. Je sais pas si tu as remarqué.
Ça paraît. C'est tellement positif aussi à la radio.
Oui, mais en fait, je l'ai fait deux fois. sur des joueurs du Canadien de Montréal, puis je le regrette encore. Ça me fait encore de la peine.
Ouais. J'ai c'était peut-être pas ton mandat, mais c'était plus fort que toi.
Ben, c'est ça. Tu sais, on est des partisans, on est ben des ouais, fans. J'ai déjà... je n'aimerais pas de nom, là, mais je sais pas. Tu sais, j'étais comme...
Domi, Brisebois.
Non, plus loin que ça. Brisebois. Ça a été tout un joueur de hockey. Il faut quand même en donner ça. Georges Larac aussi. Brisebois, Larac, je vais vous le dire. Là. Puis Larac, ça a été... Honnêtement, tu sais, on peut dire n'importe... Je le regrette encore d'avoir fait ça parce que
t'as c'est deux gars ou... qui ont...
oh, j'aurais pu. Mais Georges Larac, ça a été quand même le meilleur de sa profession. Ouais. C'était un bon joueur de hockey aussi. Là.
Ah, il savait jouer.
Il
savait un tour de chapeau.
Il a-tu fait un tour de chapeau, vous savez?
Oui, c'est son fait d'arme. Contre... Hey, si j'ai une bonne mémoire avec les Oilers d'Edmonton, puis je vais même guesser contre les Stars de Dallas, mais ça, je suis pas assez sûr. Mais c'était à Edmonton. Je me rappelle, il avait sauté dans la bivitrée comme s'il avait gagné la Coupe Stanley. Puis tour de chapeau à 4 points pour un batailleur, c'est quand même.
Donc, pour moi, d'avoir fait ça, je le regrette parce qu'il a été le meilleur dans ce qu'il a fait. Brisebois, ça a été tout un défenseur offensif. Mais bon, lui, défendre un coéquipier d'un coup salaud, c'était pas son mandat, lui. C'était pas ça.
Charles Zemnik.
C'est ça.
Rappelle quand il y avait 4 fers en l'air, puis Brisebois avait la face sur son bâton, puis il la regardait. Là. Et boy, contre Boston en 2002, je m'en rappelle encore. Je m'en rappelle.
C'est un peu c'est ça. Fait que, mais il faut se souvenir des bons moments de ces gars-là. Ouais. C'est des gars extraordinaires. Là. Puis devenir un athlète, même jouer dans le gros show d'une grosse ligue comme la Ligue nationale, t'es pas un pied de céleri en partant. Là.
Non, exact. Puis c'est vraiment ça. C'est que les joueurs de la Ligue nationale, c'est drôle parce qu'on a parlé de la même chose avec Sébastien, justement. Puis on disait que la critique, c'était parfois difficile, justement, à supporter. Puis que des fois, on a parlé de ça avec Richard parce que le podcast a été enregistré avant. Désolé de gâcher le punch. Ouais. Mais oui, c'est ça. On a parlé de Carey Price, qu'on disait que c'était pas évident pour lui. Souvent, il se faisait crier des choses à Montréal. Puis ça reste que le gars a tellement un talent qu'à la seconde qu'il sera plus avec le Canadien, les gens vont s'en souvenir puis ils vont le regretter un peu si on le chasse de Montréal, un peu comme on a fait avec d'autres, un peu comme Brisebois. Brisebois, on le sait, quand il est allé au Colorado, c'est un gars qui n'a pas de pression, jouait très bien, faisait 104 millions par année, personne ne l'achalait avec ça, mais il arrive à Montréal puis si tu faisais à l'époque ton 4 millions puis tu ne défendais pas un coéquipier, tu faisais une mauvaise passe, tu avais la foule sur le dos automatique. Là, on le voit avec Max Domi actuellement, on le voit avec Drouin actuellement, ça revient constamment puis c'est correct, le marché de Montréal est un marché demandant, exigeant, puis ça veut des gars comme Brendan Gallagher auront toujours une belle carrière à Montréal, mais s'il y a des gars qui moindrement se pognent un peu derrière, excusez l'expression, ça va finir qu'ils vont avoir les huées de la foule, ça c'est certain.
Mais moi, je pense encore que c'est un problème de communication. Puis même, je pousserais ma logique plus loin, si j'étais le Canadien de Montréal, j'engagerais 3-4 writers pour dire quoi dire aux joueurs, avec un peu d'humour des fois, dépendamment quelle est la personnalité du joueur. Tu regardes un gars comme Carey Price, là, dans son masque, il a l'air heureux, il sourit tout le temps de bonne humeur.
Mais quand vient le temps
non, mais quand vient le temps d'une entrevue, si des fois il nous disait un petit sourire, une petite blague aussi, ça, il serait idolâtré. Tu sais, mais il déteste tellement parler aux journalistes. Et nous, on le prend personnel parce que c'est... Ouais, mais nous, on aimerait qu'il soit « Hey, salut gang, les fans, on a joué une bonne game, on est content, on va gagner. » S'il avait l'air plus sympathique, parce qu'il y a du fun, le gars, puis c'est vrai que c'est un grand joueur, mais je pense que sa communication à l'écran, hey, ça n'a pas l'air d'y tenter jamais.
Non, exactement, c'est vraiment pas évident, puis tu sais...
Les critiques viennent plus de là que de son talent, d'après moi.
Oui. Le monde à Montréal veut des gens charismatiques. Ça a toujours été. Un premier ministre va être élu pour son charisme, sans nommer de nom, mais il y a des gens qui ont des belles chevelures qui ont été élus parce qu'ils parlent bien. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement souvent leur idée de parti parce qu'il y en a un autre qui est peut-être plus intéressant. Malheureusement, il n'y a pas de charisme. On nommera pas de nom, là, mais Andrew Scheer.
On a eu des grands orateurs au Québec sans avoir de parti pris politique. Tu penses à des René Lévesque, Lucien Bouchard, Jacques Parizeau. Cheveux frisés, les partis libérales. Jean Charest, c'est un. Non, mais je veux dire, c'est des gens qui savaient parler en public. Ouais. C'est de bons orateurs, mais en quelque part, je trouve qu'on est chanceux d'avoir connu des gens comme René Lévesque, Lucien Bouchard, les écouter parler. C'est waouh, sérieux, c'est.
Oui, parce que pour des gars de public, comme toi, un gars de radio, tu peux t'inspirer aussi de gens comme ça, au niveau politique ou sportif, qui ont des bonnes des bons côtés au niveau orateur, qui sont très bien capables de s'exprimer en public. Surtout des gens politiques comme ça sont toujours, on pense à François Legault aujourd'hui, il est toujours devant les micros à chaque jour. C'est pas le meilleur orateur que l'histoire du Québec a connu, mais quand même, ça peut être inspirant pour quelqu'un comme toi à regarder les petits détails et tu vois là-dessus, il l'a.
Ben, il y a de grandes forces, François Legault. Je dirais que son côté humain, il a dû faire pleurer bien du monde dans les derniers mois avec ses conférences de presse. Il a dû mettre la larme à l'œil à plusieurs personnes pour sentir son côté humain, son côté... Il se souciait des Québécois, des Québécoises, du peuple, de tout le monde. Puis ça, moi, j'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé que c'était très habile de sa part, mais c'était senti, c'était sincère. En tout cas, je ne peux pas croire le contraire.
J'espère. C'était
sincère. Il y a un truc en radio aussi, pour revenir à la radio.
Oui.
Il n'y a rien de mieux pour un animateur que la sincérité. Parce que c'est bizarre à dire, mais...
Ça va paraître.
Ça paraît tellement. Le micro, dans les écouteurs, si tu mens ou si tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, ça...
T'hésites, tu bafouilles.
Non, mais même la personne qui l'écoute, le téléspectateur, l'auditeur, peu importe, va le ressentir que c'est faux, que c'est pas vrai. Alors ça, si je peux donner un truc aux jeunes qui commencent en radio, dites toujours la vérité.
C'est une de mes questions.
Tout le temps. Non, c'est point A, point A de comment faire de la bonne radio. C'est d'être franc, d'être honnête avec les jeunes.
C'est vraiment bon que tu en parles, pour vrai, François. Puis tu me fais rappeler, j'ai regardé ma feuille parce qu'on avait parlé, c'était une de mes questions justement, quel conseil tu peux donner à un jeune en radio. Et là, je viens de me rendre compte que je t'ai pas vraiment fait d'intro à part juste dire qui tu es. Je vais la refaire parce que je dois vous avouer un secret, ceux qui écoutent le podcast présentement. C'est la deuxième prise qu'on fait du podcast. La première a été parsemée de difficultés techniques dues à une tablette qu'on veut plus en parler aujourd'hui. Mais c'est de malheur parce que c'était un bon début, puis on va... Il y a des trucs qu'on avait abordés que je veux qu'on reparle parce que c'était trop intéressant ce que tu m'avais dit, dont tes débuts à la radio. Mais je vais faire un petit résumé rapide de qui tu es, puis justement, comme on a parlé dans le dernier podcast qu'on avait tenté de faire. Donc oui, c'est ça, comme je disais, animateur à C'est quoi depuis déjà plus de 20 ans, 6 à 6, Radio Hollywood, et Frankie Hollywood Fortin de ton surnom, et pour les intimes, François Fortin.
ma femme m'appelle Hollywood.
Hollywood, c'est bon ça. C'est un bon surnom.
Un surnom, ça ne s'auto-donne pas. Il faut que quelqu'un te le donne. Ça, si tu as le temps tantôt, je te raconterai l'histoire.
J'ai le temps. Moi, je veux tout savoir les histoires, les anecdotes.
À l'époque...
Oui, vas-y.
Non, mais je peux continuer, je te raconterai tantôt. C'est
fait après.
Comme un tease. Ça, c'est bon en radio aussi de dire, regarde, je vais te raconter ça tantôt, tu peux l'entendre. Là.
Exactement. Ça, on veut des teases tout le long du podcast pour que les auditoires restent. Puis, dans le fond, tu es un gars de radio depuis déjà longtemps, comme je disais. Tu as commencé à radio étudiante, radio communautaire. Et on va en parler un peu, comment tu as fait pour être sacré dehors à tous tes jobs, sauf dans la dernière. Sauf à C'est quoi, en fait? Radio communautaire, tu es capable de se faire sacré dehors, mais vraiment, ça, je ne la comprends pas. Quand un gars de plus de 20 ans déjà à C'est quoi, c'est assez exceptionnel. Il est également fan de sport, comme on a parlé rapidement. Fan de Sport 30 aussi. C'est sa berceuse avant de se coucher. Il écoute Sport 30. Tout comme moi, il ne peut pas se coucher sans la musique. Donc, c'est vraiment...
Je pourrais même redonner les fleurs à Yannick Bouchard. Puis, ma mémoire me
Frédéric Planche.
Frédéric Plante. Le 5 à 7, je les trouve forts, les gars. Je les trouve solides. Alors, j'aime bien enregistrer le 5 à 7.
Oui, il est souvent le soir aussi avant de se coucher.
C'est ça. Ça me prend mon 5 à 7. Après le forum, je suis capable de dormir un peu. Là.
Exactement.
Après le forum, 5 à 7.
c'est vraiment bon avec André Roy, tout ça. Puis on a des bonnes émissions à RDS. Puis, oui, tu es un fan de sport, puis pour teaser le monde, on va parler de même ceux qui aiment le sport, on va parler un peu plus tard de ton anecdote que je veux absolument que tu me comptes, qu'on a jasé ensemble l'autre jour au téléphone, là, mais de quand tu es allé voir un match des Giants de San Francisco, le fameux circuit de Barry Bonds, faut que tu nous comptes ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a teasé moi, puis je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé, fait qu'on va en parler plus tard.
Si j'ai la balle, je vais vous la montrer.
Eh boy, à ce point.
Non, garde proche.
Ouais. Tu serais millionnaire.
Pas loin, ouais. Ouais,
elle doit valoir.
Je pense que oui, hein, je serais millionnaire. Sérieux. Ah ouais, ouais, c'est ça.
Je pense bien qu'il aurait envoyé un beau petit chèque pour avoir la balle, mais en même temps, tu n'aurais plus de bras parce que, en tout cas, on en reparlera tantôt, là, mais ça a été une bataille quand il y a eu la balle là, dans les estrades. Hey.
C'était hallucinant, man. Je vais vous en, on va en parler, c'est intéressant.
Ça, non, oui, vraiment. Écoute, on veut avoir des anecdotes. T'es un gars d'anecdotes. Puis justement, moi, la raison pourquoi je voulais t'inviter au podcast, c'est juste. Ouais. J'avais une semaine radio dans le podcast. Fait qu'il fallait. J'essaie de penser deux secondes à qui je voulais inviter dans le paysage de la radio québécoise. J'ai pensé tout de suite à justement Sébastien Trudel pour les Justiciers Masqués. Là, je pensais aux grandes gueules. Puis là, je me disais. Ouais, mais grande gueule, j'ai vu beaucoup de podcasts de un et l'autre, José Godet, Mario Tessier, je me disais, quelque chose de différent. Richard Turcotte, je n'ai pas vu de podcast, je l'ai invité, il a accepté. Et là, j'ai des animateurs drôles, des gens qui ont fait partie vraiment de mon époque de la radio, mais là, il y a quelqu'un qui me manque, une vraie voix radio. J'ai vraiment un gars, là, qui c'est sa voix qui fait sa renommée. Et là, j'ai dit, François Fortin, c'est sûr, faut que je l'invite. C'est... Parce que pour moi, tu as été la voix de, sans te vieillir, mon enfance, mais tu as été la voix de mon adolescence. Tu sais, ça a été, la radio m'a toujours suivi vraiment parce que j'avais pas le câble jusqu'à 12 ans, mettons, chez nous. Fait que pour moi, j'écoutais beaucoup, beaucoup la radio. Ouais, c'était spécial, mais j'écoutais le hockey à radio comme dans le temps. Puis, tu sais, j'ai vraiment, vraiment.
T'as-tu connu la télé? Il fallait que tu te lèves pour changer les postes à la roulette, quoi.
Ouais, j'en ai encore une dans ma chambre en haut, je vais te le montrer.
Avec l'antenne en lapin.
Ouais. J'avais des antennes de lapin justement jusqu'à 12-13 ans chez nous. Puis, c'est pas que le câble n'existait pas, mais je ne sais pas pourquoi. On était heureux avec ça. Puis, quand j'ai commencé à grandir, que je me pétais à la tête ces antennes qui dépassaient de la bibliothèque. J'ai dit, OK, je pense qu'il est temps qu'on se modernise un peu. Puis, c'est ça. Ça a été une belle époque, mais moi, chaque fois que j'écoutais. Les games du Canadien, mettons, à l'exemple, la game commençait à 7 heures, mais toi, tu avais 6 à 6, commençait à 6 heures. Ouais. Fait que j'arrivais dans mon sous-sol, j'avais un net de hockey, je tirais des balles, je mettais ça à la radio, j'écoutais 6 à 6 avec François Fortin, puis tout de suite après l'avant-match du Canadien. Puis, tu sais, c'était vraiment, vraiment évolué avec les années pour moi, puis c'était vraiment important de te recevoir au podcast aujourd'hui.
C'est drôle parce que le 6 à 6, c'est un show que je voulais faire. Je suis content de le faire encore, puis je suis content de l'avoir tenu numéro 1 en première place pendant 10 ans. Tu sais, quelque chose, tu sais, tenir un show de radio numéro 1, c'est pas évident. Et même juste d'être numéro un à radio, c'est pas évident. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter d'avoir été numéro un dans le marché montréalais, même en ce moment. Puis Radio Hollywood, on tape des coups de circuit avec ce show-là aussi. Je me croise et là, je remercie le monde d'écouter, d'être là, d'être si nombreux. Je suis content parce que je pourrais vous parler de plein de boss que j'ai eu. J'ai eu des boss extraordinaires, mais les boss que j'ai en ce moment, Martin Tremblay et Mario Soucy, Danny Champagne, honnêtement, là, Martin Tremblay, qui a été qui a une grosse carrière de radio, c'est un gars de radio, il connaît ça. Puis c'est plaisant d'avoir un boss d'avant. Puis ça, dans la vie, rendu à où j'en suis dans ma carrière, ça fait partie de mes conditions, moi, pour travailler en quelque part maintenant. Ouais. Puis c'est un gars, c'est drôle parce que ma fibre, ça fait longtemps que je vais travailler avec ce gars-là, parce qu'il a été boss aussi chez Bell, et là, il est Cogeco, et là, il est avec nous. Puis je me dis, j'aimerais ça travailler avec ce gars-là. Puis mon instinct ne m'a pas trompé, tu sais. Fait que je suis content. Je suis content, mais je voulais le dire au podcast, parce que c'est le fun de travailler avec quelqu'un. Ouais, c'est le fun. Non, mais j'ai connu des boss extraordinaires. Mario Cecchini, qui est patron, président des Alouettes, André Saint-Amand, qui a créé, c'est quoi, de toutes pièces. Fait que je suis content, j'ai eu des boss inspirants.
Ben oui,
inspirant,
c'est tellement important d'avoir un bon patron, peu importe le métier qu'on fait, puis la chimie qu'on a avec lui. C'est plus le fun à chaque jour de travailler. Puis, il y en aurait en long et en large à dire sur les gestionnaires de notre monde aujourd'hui. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais écoute, c'est vraiment le fun que tu aies une bonne chimie avec eux. Puis, écoute, parle-nous donc justement de tes débuts en radio, de qui t'a donné ta première chance, puis qu'est-ce qui est arrivé avant, parce que tu en as parlé dans l'autre prise, puis c'était trop intéressant, faut qu'on en parle.
Là, je vais te parler de mes mauvais boss dans les radios communautaires.
donc.
je me souviens même pas de leur nom, mais c'est drôle parce que j'écoutais une émission avec Claude Legault qui disait aux gens, parce que lui, c'est un décrocheur, il est retourné à l'école, au cégep, il a fondé la LMI dans son cégep. Puis il disait aux jeunes, il disait, allez à l'école, pas juste pour apprendre, mais pour rencontrer du monde. Alors moi, J'ai fait de la radio au Collège Notre-Dame à Montréal. Il y avait une petite radio. On faisait des jokes sur l'heure du midi en jouant entre deux tunes. C'était ça, la radio. C'était vraiment trippant. C'était le fun parce que juste au bord de la porte, on voyait le monde rire. Comment ils réagissaient à nos gags ou pas. Fait que déjà, ça a été mon premier bain de radio au collège. Et ensuite, au cégep, j'étais comme trop gêné. Je sais pas, on dirait que j'étais ailleurs.
C'est dur à t'imaginer gêné aujourd'hui, là, mais j'imagine que dans le temps...
Ben, j'ai jamais été un gars gêné. J'ai toujours aimé faire des exposés oraux, des trucs comme ça. Mais là, je sais pas, c'est un nouvel environnement. Moi, je suis allé dans un collège, j'étais pensionnaire, c'était encadré. On se connaissait tous. Et là, au cégep, je connaissais personne. On dirait que la gêne m'a pogné. J'ai comme pogné une gêne.
Ah oui.
Puis, en arrivant à l'université, à mon premier cours, je sais pas pourquoi, j'ai croisé en face d'un gars. On s'est mis à rire les deux pour rien, comme deux imbéciles. C'est juste vous, on riait. Les deux, on était plus capable d'arrêter. Le prof nous a quasiment sortis. Une rencontre de même, là, comme venue du ciel. Il me dit après le cours, il me dit, hey, je commence un show de radio à CSM. Ça te tente-tu de le faire avec moi? Je dis, aïe, c'est mon rêve de faire la radio. Ben oui. Puis en plus, CSM, c'est quand même une radio sur la bande FM, 10 000 watts, 89.3, tu sais. Fait que j'étais comme, hey, ça m'impressionnait. Puis on a commencé à faire la radio ensemble de même.
Ben écoute, c'est vraiment là que ça a débuté à cause d'une rencontre qui était drôle au départ.
Oui, Alexandre Gosselet. Et Alexandre Gosselet, qui est d'origine française, qui aurait aimé percer à Montréal, mais on parle souvent de racisme ou de ci, de ça. Les Québécois n'étaient pas très ouverts. On n'était pas très. En tout cas, les ceux
qui. L'accent français, oui.
Avoir un accent français, il avait peur de ça. Donc, il est parti vivre à Paris où il connaît une carrière extraordinaire de reporter. Là, c'est ça, je suis bien heureux pour lui. Puis, j'ai rencontré un autre gars important dans ma vie, Marc-Hugo Dupré. Et avec lui, on fait encore, c'est encore mon chum, comme les, tu sais, on est de même. Là. Puis on fait des soirées, des coups de radio, on s'enregistrait sur les cassettes, on arrête ça, on recommençait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Défriche un autre terrain, on se donnait des idées, on s'inspirait. On lisait des livres de Valérie Gellert. Valérie Gellert, c'est une sommité en radio. C'est elle aussi apprendre ça, le parler au monde en radio, d'essayer de casser la distance entre le micro et l'écouteur, de réussir à embarquer dans le char de la personne, de rentrer dans le salon sans être dérangeant, en étant une belle présence.
Oui.
Donc,
pas trop à mettre, juste l'équilibre.
Oui. Mais pour revenir à CISM, c'est une radio universitaire, donc il voulait du contenu très sérieux et moins sérieux. Ouf. Moi, je rentrais là, « OK, all right, yes! » Elle me trouvait bien trop fou. Fait que, finalement, ils m'ont mis la nuit de 3h à 6h du matin, mais j'y allais pareil. T'sais, on se débarrassera jamais de lui. Un moment donné, ils m'ont confronté, ils m'ont dit, « OK, toi, va-t'en, là, t'es bien trop fou, t'es fou dans la tête. »
Ben, voyons.
Ça m'a fait de la peine. Ah, ouais, ça m'a fait de la peine.
Aux communautaires étudiantes, là,
voyons. Ouais. Ensuite, je suis allé. Mais j'ai quand même fait des belles rencontres, des gars et des filles avec qui je suis encore ami aujourd'hui là-bas.
Rien qui arrive pour rien.
Sébastien Benoît, je faisais la radio avec moi là-bas à CISM, à Radio Communautaire dans le temps.
Ah, ouais.
Et il était déjà bon. Hein, il était.
L'animateur.
On a commencé ensemble. C'est fou. Et après ça, à Chat FM à Longueuil. Fait que je travaillais, j'allais à l'école, je travaillais au golf de Boucherville, j'allais faire mon show, je faisais le show du midi tous les midis de la semaine. Gratuitement, là, bénévolement. Après ça, j'allais au cégep, j'allais à l'université à mon cours. Après ça, j'étais clown à la ronde l'été. En tout cas, je lâchais pas. Hein, c'était fou, j'en avais dedans.
La radio et le clown, c'était quand même. Ouais. Dans les deux cas, t'amuses le public à une certaine, un certain point. Ouais. Mais tu sais, t'avais-tu le côté. J'ai fait la mascotte aussi dans mon autre vie. Fait que je comprends bien l'idée du clown. Puis, à un moment donné, il y a un temps qu'on dirait que t'es comme. Là, il est quand même à d'autres choses.
Quand
tu l'as vécu, ça.
Hey, je pense que je suis l'inventeur de Krusty le clown. Honnêtement, là, à ronde, tu as droit à 3X avant d'être mis dehors. Je m'entendais tellement bien que tout le monde que j'étais rendu à 22X. Ils ont attendu à la fin de l'été avant de me mettre dehors. Des fois, les enfants voulaient que je leur fasse des bicycles en ballon ou des affaires des chiens en ballon. J'étais tellement tanné. Tu sais, genre le clown qui fume une smoke à côté sur une barrière et disait à l'enfant de s'en
Krusty
aller.
Le clown.
C'était moi. Je faisais ça. Donc, incroyable. Les autres, la sécurité trouvait ça l'autre. Donc, ils sont break, ils ne prennent même pas deux minutes pour un enfant. Ça me tente, à la fin de l'été, tu es écœuré de faire des ballons.
Ah,
non, 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 non.
Le monde a tellement espoir là, quand t'as un sou. Je me faisais tabasser par des enfants dans un maxi à un moment donné. Je faisais ficello, tu sais, puis j'étais vraiment un ficello. Puis là, le monde me tabassait, puis il essayait de m'éplucher. J'étais, hey, come on, je suis une mascotte, je suis payé pour faire ça à 12$ de l'heure. Lâche-moi. Puis là, ben, la madame est en arrière, puis oui, continue, elle encourageait son enfant. Je dis, voyons donc. C'est... En tout cas, excuse, il fallait que je le dise, je défends.
Mais je suis content que tu parles de. Je suis content, on s'en va à droite, là. Tu parles de mascotte parce que le Youpi des Expos, était cool. Il était cool pas à peu près. Là. Il faisait du 4 roues, il slidait. C'était la seule mascotte à s'être fait expulser d'un match de baseball. Il tapait sur l'abri. Il était fou raide. Et là, le Youpi des Expos est devenu le Gritty des Flyers de Philadelphie parce que Youpi était fou comme Gritty dans le temps.
Le Canadien est devenu plate comme jamais.
Ben, j'aimerais ça qu'il redevienne un peu plus fou. C'est là, merci de m'emmener sur ce chemin-là. Parce que moi, ce sont de beaux souvenirs d'enfance, le Youpi cool des Expos. Là. Pas le Youpi, je prends des selfies. Mais il semble que Youpi, c'est plus gros que des selfies.
En 15e manche, là, il s'était habillé avec son bonnet et son soupe pour dormir. Là. Ça, c'était incroyable contre les Dodgers. Là. C'est, je m'en rappelle, c'est fou.
Oui. Il faut que ça revienne, ça, pour notre plaisir. C'est amusant. Il faut qu'il y ait un bras de fer, là, quelque chose qui se passe avec Gritty. Puis Gritty qui a insulté le Canadien de Montréal, là, qui a versé du sirop d'érable sur notre chandail. Youpi, il n'a pas répondu à ça. Qu'est-ce qui se passe?
On le demande, la vengeance de Youpi.
Ben oui! Hey, Youpi, là! Il faut qu'il se passe de quoi? Qu'il y a un chili flea steak, quelque chose. Là.
Ah, tellement. Ah non, tu me donnes le goût de ça, merci. Mais.
on revient à Chauffeur.
On revient sur la drague. C'est la beauté du podcast. On déraille.
Là, c'est ça. Là, à un moment donné, je suis devenu plus fou que jamais. Je commençais mon show en disant « Tout le monde tout nu, gros Longueuil. » Et ça n'a pas passé au conseil de la radio communautaire à Longueuil. Alors, on m'a encore remercié. Ben, je ne sais pas. Moi, ça me faisait rire. J'étais jeune. Là. J'ai 19 ans, 19-20 ans. Je ne sais pas j'ai quel âge, mais j'ai du fun.
La belle épopée.
C'est ça. Puis finalement, bon, ça me fait bien de la peine de me faire mettre dehors de la radio communautaire. Je me dis, bon, ben la radio, c'est pas pour moi du tout, là, franchement. Puis Marc-Hugo Dupré, dont je t'ai parlé tantôt, sa grand-mère me donne des cours de diction, qui est encore mon meilleur chum aujourd'hui, avec Alain Forel Plombier. Mais ça, c'est un auditeur de C'est quoi qui est aussi devenu mon meilleur chum. Anyway, fait qu'il m'appelle et me dit, j'ai une job pour toi à Rivière-du-Loup. Il y a Daniel Saint-Pierre qui cherche un animateur.
Rivière-du-Loup,
oui. Sérieux, 4h30 de char.
Passé à chaque jour, j'espère. Là.
Non, j'habitais là-bas. Je suis allé habiter là-bas. Mais ça ne me tentait pas d'avoir de la peine encore de même.
Ah, ben.
Honnêtement, ça me brisait le cœur. Et il me disait, oh, vas-y, tu vas avoir du fun là-bas. C'est une belle station de radio. Et effectivement, c'est la puissance musicale de l'Est du Québec. Donc, un dérivé de C'est quoi. Et je faisais 40-45 heures de radio, contrairement à d'autres stations en région où tu fais un show de radio de 2-3 heures par jour, puis c'est fini. Wow. Donc, 12 heures, 15 heures de radio par jour. Moi, j'en faisais 40-45 heures par semaine. À part des reportages, des remotes en direct des magasins, si ça, j'ai ramassé le marché. Là. J'animais dans les clubs, je faisais mes premières armes là-bas. Je faisais des reportages pour Tanguay. Quand tu fais des reportages pour Tanguay en région, là, c'est parce que ça va bien. Honnêtement, c'est drôle à dire, mais c'est
les
ça.
Les ameublements Tanguay à Québec, c'est fort.
Ouais, et là, je reçois d'ailleurs, je suis en train de faire des reportages en direct de chez Tanguay, puis je reçois un appel d'un Bob Baudry. Tu connais-tu Michel Baudry dans le Journal de Montréal?
Ben oui, il est tellement drôle, ce gars-là, là. Incroyable.
Son frère est Robert Baudry, et le directeur des programmes de CKMF. Il m'appelle, il me dit, j'aimerais parler à François Fortin. Je dis, ouais, c'est moi, chez Tanguay. Il dit, c'est Robert Baudry, directeur des programmes de CKMF. Vous savez, là, c'est beau, là, les jokes. Je pensais que c'était quelqu'un qui me niaisait. J'ai raccroché au lit trois fois. La troisième fois, Bob Baudry m'appelle et dit « Écoute-moi bien, si t'es pas ici demain à Montréal à 4 heures, tu travailleras jamais à Montréal, mon gars, c'est-tu clair? » je raccroche, j'appelle à CKMF, je dis « Est-ce qu'il y a Robert Baudry, directeur des programmes? » Et là, je pense que sa secrétaire, il savait, il riait. Il dit « Tu François Fortin? » Je dis « Oui, il t'appelle demain à 4 heures. » C'est ça ta question. Genre, qui a dit que je suis désolé maintenant? Ça a commencé de même. Ça a commencé
une belle
de
façon
même,
de commencer ta carrière.
Ouais, en raccrochant au nez du boss trois fois de suite.
Wow!
Ouais.
C'est quelque chose.
Fait que j'ai fait 3 ans à CKMF et c'est là que j'ai connu les justiciers masqués. C'est là que j'ai connu Marc-Antoine. On faisait le show de soirée partout au Québec de 9h à minuit en direct de Montréal. Puis après ça, on est parti à C'est quoi? Ils sont venus me rejoindre un an plus tard. Puis notre affaire, ça a décollé. Là, on a commencé la fin de semaine à C'est quoi? Petit show, bang, bang, bang. On s'est ramassé l'après-midi de 4, 2 à 3. Après ça, dans le retour,
ouais,
où on a eu énormément de succès, on a été numéro 1, 18-34. 18-34 ans, dans ce temps-là, c'était une talle qui appartenait aux grandes gueules. On a réussi à les battre. C'était un exploit. Là. Je pense qu'on a quasiment eu une parade à Verdun. Là. C'était fou.
Non, non, c'est fou. Là, c'est...
Que ça a été un bon moment. Ouais. Ouais, puis à un moment donné, ben, on avait le goût d'un peu de changement, les trois. Alors, moi, j'ai remplacé... j'ai pris la barre du 6-6 qui n'allait pas super bien. Denis était parti. Il y a eu quelques personnes qui l'ont remplacé. Je ne suis pas obligé de les nommer, mais oui, le 6-6 n'était pas très en santé. Et Richard Z est venu travailler avec les justiciers masqués. Moi, j'ai pris le 6-6. Puis du jour au lendemain, il est redevenu numéro 1. Bang! Ça a duré 10 ans de temps de même. Fait que ça a été une belle ride aussi.
Oui, parce qu'il y avait quelque chose de différent aussi à l'époque. C'est que, comme je disais, moi, j'avais pas le câble et ni l'Internet. J'étais vraiment à l'autre. J'habitais dans le fond d'un bois, mais à la terre bonne. Ouais. Que, puis, tu sais, on n'avait pas la chance d'avoir les nouveautés musicales à part à la radio vraiment. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, tu sais, les vidéoclips, dans le temps, il y avait le top 6 anglo-franco à Musique Plus. Mais étant donné que j'avais pas Musique Plus, ben, je pouvais pas plus les voir. Fait que moi, j'écoutais le 6-6 pour voir c'était quoi la nouveauté qui rentrait aujourd'hui dans les zones musicales du Grand Montréal. Puis quand t'arrivais en disant le numéro 1 voté par tous, j'avais hâte déjà de le voir. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui. Mais quand je le réécoute dans mon char, j'étais encore un peu excité de dire qui a voté aujourd'hui.
Le show, le 6-6 est encore numéro 1. Éric Martel fait un super job. Le vendredi, on est numéro 1 aussi. C'est le plus vieux show de radio au Québec. On a célébré nos 31 ans il y a quelques mois. Alors, Denis Grondin a été le premier à animer le 6-6, le père de l'acteur, Marc-André Grondin. Il l'a fait pendant 6 mois. Et donc, c'est lui le premier qui a fait le 6-6. Denis Grondin, à l'époque. Il y a 31 ans.
Oui, c'est ça. Toi, tu l'as tenu pendant combien de temps, à peu près une dizaine d'années?
J'ai fait 11 ans. Okay. J'ai un peu perdu. Moi, je suis pas bon dans les dates. On dirait que je me souviens de la vie avec des tunes. J'étais là pendant cette chanson-là. On dirait que les dates, les années, je suis un peu mêlé, mais je te dirais 11 ans à peu près.
Oui, c'est ça, parce que...
12
comme
ans.
Je le disais dans l'autre podcast, t'es quelqu'un de tellement secret que j'ai pas été capable de trouver le trois quarts de mes recherches que je fais d'habitude. Il y a rien sur Google, François Fortin, pourtant, t'as une tellement belle carrière.
C'est fou. Peut-être plus, peut-être une année de moins, mais je te dirais 12 ans, on n'est pas loin de la vérité. Sans compter le 6-6 du vendredi que je fais depuis 3 ans à peu près.
Oui, c'est ça.
J'ai repris il y a un an et demi. Il y a un an et demi exactement.
Wow, OK. C'est vraiment une super belle carrière, mais justement, comme je voulais parler en fait plus tôt dans le podcast, puis ça a dérivé vers autre chose, mais la radio a tellement évolué avec les années. Quand on pense à ton style d'animation que toi tu fais, ton débit de voix, ta voix qui est vraiment radiophonique, t'es comme vraiment, si on veut, la transition entre les anciens animateurs radio qui avaient vraiment, on dirait, tout, dans le temps de Mario Lirette, puis tout ça, c'est vraiment des vraies voix là, de gars d'annonce, là, puis on dirait que ça a changé avec les années, que ça c'est des gars plus polyvalents, on écoute peu importe le poste, ils ont vraiment toutes des voix différentes, mais tous des styles d'animation qui faut que tu rejoignes, tu touches le public absolument. Ouais. Puis toi, ce que j'aime le plus, c'est que tu es vraiment comme les gars, un peu comme je disais, les gars d'annonce, les gars qui...
Un mélange.
Les gars qui avaient le goût d'acheter une piscine du Club Piscine parce qu'ils faisaient une annonce. Venez nous voir, on vend une piscine aujourd'hui, 16 pieds, vraiment pas cher, ben du clair.
Moi, je vais t'en vendre ta piscine, mon gars, pas à peu près.
Exact, non, mais c'était un bon annonceur là-dessus. Là.
Ouais, j'en ai fait beaucoup, mais depuis, je dirais maintenant 15 ans, 10-15 ans, je suis plus un porte-parole. C'est-à-dire que je vais m'associer à une entreprise, et on parlait de Mario Cecchini. C'est un des meilleurs conseils que j'ai eu de ma vie, Mario Cecchini. À un moment donné, je vais voir Mario, qui était le président de Chorus, qui c'est quoi, était à Chorus à l'époque, avant Cogeco. Et il m'a dit, Mario Cecchini me dit, François, je vais donner un conseil dans ta vie. Associe-toi à des bonnes choses. Parce que tu ne veux pas vendre la scrap au monde. Parce que si tu vends la scrap au monde ou tu leur proposes de la scrap, ils vont s'en souvenir. Ils vont savoir que ce que tu dis, c'est de la scrap. Alors, j'ai toujours fait attention de m'associer à des institutions, des gens qui avaient fait leur preuve, qui font encore leur preuve, pour qui le souci de l'être humain est plus important que ce qu'ils vendent. Et je ne pensais jamais être associé à l'automobile. J'ai toujours voulu, mais je me suis toujours demandé à qui. T'sais. Et là, je suis associé à Chartrand-Ford à Laval, qui est une institution, c'est un des plus vieux concessionnaires au Québec. Ouais. Et je suis content d'être avec eux parce qu'ils ont le souci de l'humain. Ils veulent que le client revienne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ils ne sont pas là pour faire une pièce de plus sur ton dos. Alors ça, je trouvais ça honnête. Et avant ça, j'ai fait le Barbie Barn. Barbie Barn qui a fermé au centre-ville, les meilleurs côtes levées. Une autre affaire de 50 ans.
C'est vrai.
Il en reste un Barbie Barn qui est à Dehors des Ormeaux.
Oui, 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 c'est vrai, je me suis. Ouais. Ouais. J'ai déjà été de Pays-Tabac.
Là, je te parle de différentes choses, là, mais c'est ça. Donc, tu sais, je vais m'associer à des trucs que j'aime.
Ben, c'est ça. Il faut que ça te ressemble aussi parce qu'il y a des gens qui vont accepter un peu quand tu deviens populaire, tu acceptes le premier contrat publicitaire qui t'est offert, en fait. Mais,
c'est une erreur. Il faut que ça te ressemble. Oui, parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Faire de l'argent vite, mais pendant longtemps, tu n'en feras peut-être plus parce que tu as fait une erreur, tu as pris une mauvaise décision. Alors, t'es mieux de dire non, de passer ton tour comme au poker ou n'importe quoi, là, de dire d'attendre quelque chose qui sera là à moyen et à long terme. Quelque chose qui va... C'est mon opinion. Les gens, c'est sur un moment donné aussi, si tu as besoin d'argent, tu peux bien le faire.
Non, mais c'est bon que tu en parles parce que je suis rendu là dans le podcast, justement. Il faut que je pense à m'associer à des choses qui sont représentatives à mes intérêts et au podcast aussi pour commanditaire, exemple. Des gens des entreprises qui voudraient commanditer le podcast, mais c'est sûr que je peux avoir des opportunités dans différentes sphères de milieu, mais en même temps, je ne veux pas non plus faire de la promotion de choses que je ne crois pas ou qui ne me ressemblent pas juste pour faire la pièce non plus.
Je veux parler de ma compagnie, mais Cogeco commence à regarder pour les podcasts. Je pourrais aller voir les gens chez Cogeco, leur dire « Est-ce que mon podcast vous intéresse? Est-ce qu'il y a moyen de faire une association ensemble? » C'est payant pour eux, c'est payant pour toi aussi. Ouais. Mais c'est un autre bon conseil que j'ai eu parce que ma soeur habite en Californie et j'ai un très bon chum là-bas, Todd. Je ne dirais pas son nom de famille parce que c'est un avocat criminaliste à Vegas. C'est un top, là.
On n'en parlera pas, je ne veux pas avoir de représailles.
mais il me dit, c'est niaiseux dans la vie, mais si tu ne mens pas, tu ne l'auras jamais.
Ouais.
Fait que des fois, c'est pas d'être profiteur aussi, ça, parce que je pense que si quelqu'un te donne quelque chose, c'est bon de redonner toi aussi. Il faut toujours redonner dans la vie. Tu peux pas juste prendre, mais il faut pas être gêné de demander.
Non, c'est alors, ça, c'est un peu... j'ai jamais été gêné. La preuve, je te l'ai demandé, puis je demande à beaucoup d'invités que les gens me disent « Tu réussiras jamais à avoir ce gars-là. » Un peu comme Eric Gagné, tout le monde me dit « Comment t'as fait pour l'avoir? » Mais écoute, c'est tu demandes, t'auras jamais...
Peut-être
qu'il va arriver, tu vas avoir un nom.
C'est... Eric Gagné, Monsieur Lassange. Gel, Cy Young, record de sauvetage. C'est tout un homme.
84 consécutifs. Ah,
belle carrière.
On peut dire ce qu'on veut sur ses, sur ses tâches, si on veut, dans son dossier, dans sa carrière.
J'en tiens pas rigueur.
Tâches dans cette époque-là.
On est qui pour juger? Puis moi, je ne baigne pas dans un vestiaire de baseball ou de sport, mais on resterait surpris. Je ne serais pas surpris que c'est la norme. À un moment donné, tu deviens une machine de performance. Ouais. C'est pas juste en mangeant des bananes que tu vas atteindre. C'est le niveau des gars qui ont décidé de prendre des vitamines en plus pour aller chercher des millions en plus. C'est des millions de dollars. Venez pas me faire à croire qu'il n'y en a plus et qu'il n'y en a pas. Arrêtez ça.
Non, puis regarde, Eric ne s'en cache pas. Ce que j'aime de lui, c'est que c'est un gars tellement généreux. Ouais. Tu sais, encore hier, il m'écrivait. Il dit « Je vais te mettre en contact avec quelqu'un. » Il dit « Je veux vraiment t'aider. Lui, va pouvoir te donner des bons conseils. » Colin, c'est un gagnant du Cy Young. Il habite en Arizona. Il parle. Ouais. Ça fait un mois que je n'ai pas écrit. Il me réécrit lui-même. Tu sais, c'est un gars qui a une grande générosité. Il s'implique au Québec. Il a acheté B45, le bâton de baseball. Il donne des conseils à des jeunes comme Jason Therrien qui habite chez eux en ce moment, un jeune lanceur québécois qui entraîne puis qui veut qu'il suive ses traces, qui a signé avec les Dodgers lui aussi. Fait que tu sais, c'est beau de voir que le gars, oui, a fait des erreurs, mais oui, a appris de ses erreurs, puis il s'en cache pas, puis il m'a même dit, tu sais quoi, je regrette pas. Je regrette pas, je regrette d'avoir déçu les gens, mais je regrette pas ce que j'ai fait, parce que c'est ce que je suis aujourd'hui.
Mais comme je te disais, je ne veux pas prendre sa défense ou quoi que ce soit, mais honnêtement, il faudrait demander à l'agence antidopage. Est-ce que je me demande c'est quoi le pourcentage des
80%
joueurs.
80% des joueurs qui avaient des stéroïdes.
Peut-être plus même. C'est plate, je sais que c'est pas correct, c'est pas si ça, mais.
Non.
Je comprends le combat, puis je suis d'accord avec le combat pour leur santé, pour le plus tard, mais dans l'époque où Éric Gagnier était, ça devait être 89% des joueurs.
C'est sûr. Puis, tu sais, en même temps, ils ne savaient même pas que c'était défendu. C'est quand c'est les fait proposer, ceux qui veulent lire une bonne biographie, Game Over, allez lire ça, c'est vraiment bon. Puis, il l'explique en détail. Puis, on va en parler dans le podcast parce qu'il va y avoir une prise 2 avec Éric. Puis, il va nous parler justement de comment ça s'est passé au début. C'est vraiment suite à une blessure, simplement. T'sais, il y a eu une blessure au coude grave. Son médecin est arrivé. Puis, toi, si le doc vient te voir, ta carrière, là, toi, c'est la radio. Puis le doc, demain matin, tu as un problème de corde vocale, tu parles juste comme ça. Puis le doc dit, regarde, tu prends cette pilule-là, en deux semaines, tu peux refaire la radio. Toi, tu disais oui.
C'est long que tu dises ça parce que cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un polype sur une corde vocale.
Ah ouais.
Et la première étape, c'était de shooter du stéroïde dedans. Mais j'ai été miraculé le 6 février, le jour de la fête à Bob Marley puis de mon grand-père. J'ai guéri du jour. Bang! De même!
Wow!
De même, moi, j'ai dit, j'étais dans le sud, j'étais au Mexique, je me suis réveillé le 6 février, je m'en souviens encore, j'étais guéri, je capotais.
Attends, t'étais le 6 février au Mexique, puis le coronavirus a frappé début mars, t'étais chanceux.
Ça, j'ai une bonne étoile.
T'as pas assez proche.
Quand même! Ça m'inquiète, mais ce que je trouve le plus dur, c'est de... Je vois ma mère, ma mère a 77. Normalement, on ne dit pas l'âge des femmes ou mon père 80 plus. Je ne suis pas capable de leur donner de bisous. Je ne donne pas de câlins. Je ne prends pas de chance. Ouais, je ne sais pas si je suis symptomatique, asymptomatique. C'est ce que je trouve le plus dur, de ne pas, pas donner un câlin à ma mère, à mon père, de les prendre dans mes bras. C'est ce que je trouve le plus tough. Ça, pour ça, j'ai hâte que ce soit réglé.
Ouais, c'est weird. Si c'est ma fête.
C'est des détails comme ça.
Tu peux pas donner de main à ton père quand il te donne un cadeau. C'est bizarre. C'est juste ça qui a changé. Ben, pas mal d'autres choses qui ont changé, là, mais on s'entend que c'est plus comme c'était. Là.
Honnêtement, j'espère qu'il y a des gens qui n'ont pas trop pris de mauvais plis pendant cet isolement-là, cette pandémie-là. L'anxiété. Si je suis pas docteur, là, mais je le vois, je l'entends. Il y a des gens qui m'appellent, les auditeurs qui m'appellent. Puis, je leur ai dit, tu sais, va prendre une marche, va jouer dehors, va voir du monde, va voir du monde. T'es pas obligé de les coller, mais va voir du monde, sors de chez vous, parce que c'est...
Ça a augmenté, le
malheur
social, puis en plus de job à cause de ça. C'est vraiment quelque chose, puis regardez, sortez comme tu viens de dire, prendre une marche, faites du sport.
Allez voir des gens, même si c'est une distance aussi, ça. Je veux pas rentrer dans les détails de la pandémie, mais j'ai le souci du bien-être du monde.
Ouais.
Parce que ma femme et moi, on était blousés à un moment donné, pas mal. On s'est dit, il faut qu'on sorte d'ici, ça nous a fait tellement bien, mon gars, là, c'est fou.
Tellement. Mais
on s'en rendait pas compte, on était... triste tout le temps, quasiment. Là. Pas normal.
À la radio, tu trouves-tu une différence? Soit avec le public, tu trouves-tu qu'il y a quelque chose qui a changé depuis le début ou ça n'a pas eu de grands impacts pour toi?
Ben moi, mon mandat, c'était... dès le départ, je me suis dit, ils sont inondés de nouvelles là-dessus, que ce soit RDI, LCN...
On arrête d'en parler.
C'est ça, je dis, moi, je suis plus capable d'écouter. Je ne veux rien savoir. Je lis les journaux, that's it. Pour me tenir au courant s'il y a un vaccin sans rien ou quelque chose. Mais non, moi, je me suis dit, non, moi, je vais continuer à partager de la bonne humeur, du soleil, de la gaieté. J'ai pris ça très au sérieux comme mandat. Puis de toute façon, j'ai tellement de plaisir à rentrer à job. Les gens sont tellement fins, là. Ça n'a pas de sens. Il y a du bon monde au Québec. J'ai voyagé Beaucoup, beaucoup. Puis ça, je trouve ça le fun aussi culturellement de voyager. Il y a du bon monde partout dans le monde. Mm. Mais les Québécois, on a quelque chose de latin en nous, de très
chaleur.
Une chaleur unique aux Québécois, aux Québécoises. Ouais. Qui est très non récente pour un animateur ou une animatrice de la radio. Si tu prends le temps de les écouter, tu...
Surtout à Montréal.
honnêtement, j'ai pris ça comme mandat, mais je suis toujours fait ça comme animateur de la radio. Mais je peux remercier le monde d'être aussi rayonnant, de briller dans ces temps de... Des fois, c'est un peu gris, mais qui brille encore. Merci.
Ah, tellement. C'est vraiment, c'est un moment de radio que les gens ont besoin de décrocher quand ils t'écoutent. Ah ouais. Surtout la fin de semaine, tu viens de finir ta semaine de travail. Tu n'as pas envie d'avoir de nouvelles du virus ou quoi que ce soit. T'sais, ta job, c'est de changer les idées au monde. Puis je pense que c'est très bien. J'ai le goût de te parler de ton épopée. dans le temps que tu étais animateur dans les clubs de nuit. J'imagine que tu as une couple d'anecdotes. C'était une autre époque. C'est sûr que toi, tu étais après l'époque des années, mettons, 70-80, que les animateurs de radio étaient également des animateurs de boîtes de nuit puis qu'il y avait de la drogue là-dedans puis tout plein d'affaires. Ça a été une autre époque des animateurs, mais toi, tu as comme suivi ça. Mais c'était quand même... C'est rock'n'roll d'être un animateur de radio quand même.
Si je n'avais pas aimé ça, je ne l'aurais pas fait.
Oui. Ça prend le personnel qui fit.
C'est ça. Puis j'ai travaillé dans des clubs où ça pognait pas à peu près. Le Dôme, c'était 3-4 000 personnes au coin de Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Après ça, la Boum.
Stanley. Ouais.
Le studio 54, le film Funky Town. D'ailleurs, dans le film Funky Town, le réalisateur m'a demandé de jouer un caméo parce qu'il y avait l'animateur de radio des clubs de nuit Coco Douglas dans les années 70 et moi dans les années 2000. Alors, tu sais, il voulait faire un caméo entre Coco Douglas et moi dans le club.
Je vais le réécouter, je me souviens de cette affaire-là.
mais ça, c'est une autre histoire. Le gars, il me dit, hey, ça te tente-tu de faire un caméo? Et moi, il me dit, tu vas travailler 4 heures à minuit, là, d'attitude. Ça a commencé le tournage à 2 heures du matin.
Oh!
Je suis déjà tanné. Moi, je suis un gars de radio, là. Je marche à la seconde près, là. Je suis à l'heure. J'attends. Hey, là, j'étais tanné. Il voulait que je revienne le lendemain. Je dis, je m'excuse. Prends ce que tu as, je ne reviens pas le lendemain. Oublie ça, je suis parti là à 7 heures du matin, je capotais. C'est interminable. Je ne sais pas comment les gens de cinéma font, là, mais c'est pas pour moi. Tu es dans la perpétuelle attente. Tout le temps, t'attends. Puis là, qu'est-ce que tu fais encore? T'attends. T'attends, non, c'est interminable. Mais c'est un. Donc, j'ai trouvé ça cool d'être demandé pour faire ça. Ça m'a touché parce que j'ai fait aussi le Beach Club. À l'époque, les premiers propriétaires du Beach Club, Pierre Touchette, ces gars-là, c'est un marécage. Les gars, ils ont arraché ça à main et ils ont construit un paradis de sable et de palmiers.
Le nouveau là-bas. Beach Club, c'est quelque chose.
le nouveau, je suis allé une fois, mais l'ancien, tu sais, le party, c'est quoi chaque été? C'était leur plus gros party de l'année.
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
C'était 30-35 000 personnes. Là. C'était fou.
Aïe, c'était un petit temple.
C'est le Centre Bell, c'est 20 000 personnes. Ben, quasiment le double du Centre Bell au Beach Club. J'ai adoré ça. J'ai eu du fun. Oui, il y a de l'alcool en masse. D'ailleurs, je ne bois plus depuis ça. Je bois de l'eau pétillante. Pas des farces. À un moment donné, t'en as plus pour les fins, pour les fous, puis c'est assez.
T'as fait en masse tes années de party, puis un moment donné, il faut passer à d'autres choses.
C'est ça. Je te dis pas qu'un jour, je sais pas, peut-être que je vais boire un verre de vin, une bière, là, mais en ce moment, depuis 6-7 ans, là, je n'en ressens pas le besoin, puis je vis très bien avec ça. Je vis très bien. Je fais de la plongée sous-marine. J'ai recommencé à faire du sport. Je m'entraîne. Ça a l'air de rien, là, mais quand tu as mon âge, 26-27 ans, il faut que tu fasses de quoi?
Hey, t'es plus jeune que moi, je savais pas.
T'as
commencé jeune à la radio.
Pas payé.
Hey, écoute, mais c'est bon parce que ça, justement, avec le film Funky Town, même Sébastien, justement, me disait qu'il va sortir un livre qui s'appelle À micro fermé, les folles histoires de la radio FM. Puis, justement, il me disait que ça allait être des gars de ces années-là qui racontent des anecdotes dans son livre jusqu'à aujourd'hui. Puis, je me disais, c'est fou comme qu'il doit en avoir des anecdotes qui se sont produites dans ces années-là où que la drogue circulait dans les clubs plus que d'autres choses, mais tu sais que ça...
Ben, même dans les stations de radio. Stations de radio, oui, tu sais, c'était pas rare que tu voyais de la drogue sur la console ou toutes sortes de drogues.
C'est dur à imaginer aujourd'hui. Là.
Ben, aujourd'hui, c'est plus des propriétaires privés avec un esprit familial ou... Maintenant, il faut que l'esprit familial vienne de ton vice-président, de ton directeur des programmes. Et les gars réussissent à le faire aujourd'hui. Mais avant, à l'époque, le propriétaire prenait une bière des autres. C'était les années folles, tu sais, c'est les années 70, 80, 90. C'était différent, mais je pense pas que ça a changé tant que ça, honnêtement. Je pense plus que les drogues qui ont changé
Il y a moins d'acide.
Ben ouais, moins de poudre à bébé, des affaires de même, là, tu sais. Aujourd'hui, de ce que j'en vois dans les films, on ne mettra pas des œillères. Là, les jeunes prennent des pilules ou des affaires de même. Ah,
ouais.
C'est ça. Mais donc, c'est très discret.
Oui, c'est ça.
Pas obligé de te rouler un bill, faire ça sur une table. c'est pack-pack, c'est réglé. Là. Alors, je ne pense pas que ça a changé tant que ça. C'est juste différent.
Puis, François Fortin aurait aimé vivre dans quelle époque si tu avais le choix de changer d'époque?
Hey, c'est une bonne question.
Pas évident. Je me suis posé l'autre jour, j'ai pas été
honnêtement,
capable.
Honnêtement, avant 2020, puis mais que ce soit réglé cette affaire-là, après 2020, non, j'adore notre époque. Moi aussi, j'ai connu ça pas Internet. Là, j'ai connu ça. Fallait lire des livres pour s'informer, s'instruire.
D'ailleurs, c'est dur de s'en ennuyer après.
Je suis grand lecteur. Mais Internet, c'est hallucinant. Moi, je suis. C'est la première photo que j'ai downloadée là, quand j'avais 21-22 ans, c'était long. Là. Hey, mais c'était comme gagner à la loterie sur un gratteur. Là. C'était un moment de bonheur intense.
Ah ouais.
C'est ça pareil.
Je suis content d'avoir connu un peu comme toi, tu l'as connu plus vieux, mais d'avoir connu la transition de pas d'Internet à Internet.
Moi aussi. Au
début, j'ai été baigné là-dedans plus jeune un peu, mais je me rappelle encore que ma première blonde en secondaire 1, là, j'essayais d'envoyer un email, puis mon Internet se déconnectait, puis après ça, j'entendais « ça remettait à se reconnecter. Là, ah ouais, envoie-toi. » Puis là, je voyais la petite enveloppe. Ben, pouf, j'envoyais un email. Là, je capotais. Hein, à cette heure, avec Facebook, c'est assez Messenger sur ton téléphone. C'est assez inimaginable d'imaginer ça aujourd'hui. Mais je suis content de l'avoir connu. C'était une autre époque. Toi, tu as connu encore plus vieux aussi. Avoir choisi, sincèrement, moi, je choisirais les années entre 85 et 95. Je suis dans 82, mais être adolescent dans ces années-là, j'aurais aimé ça.
Moi, je suis en 73.
Ah, tu l'as connu.
C'était le fun. C'était des belles années. C'était très. Les gens barraient pas leur porte en avant. Tu rentrais chez le monde.
Hockey dans la ruelle.
Hockey dans la ruelle. Moi, je prenais des cours de piano à 6 ans. Il fallait donc pas que mes chums le sachent. Que ma mère m'appelait. Je dis pas à mes chums que je m'en vais suivre des cours de piano. Je parle pas avec les gars de hockey. C'est le fun. Hein. C'est ça. Ouais. On fait la rue. On se faisait des
fous avec
des briques. Non, le hockey. Tu sais, je regardais Guy Lafleur hier au tournoi de...
Hey boy, t'es en shape le bonhomme, hein?
Les gars sont en shape pas à peu près. Là. C'était du hockey plus rough. Bon, c'est drôle parce que t'es un passionné de hockey. Puis moi, je te disais qu'il nous manque un ou deux Tom Wilson pour aller loin.
On en a parlé. Je voulais en parler d'ailleurs.
Je sais qu'il y a des gens qui peuvent détester Tom Wilson avec les Caps de Washington.
Quel joueur!
Parce qu'il peut être tough, tu sais, mais il ne joue pas sur le premier trio avec Ovechkin pour rien. Là. Imagine un gars c'est un excellent joueur de hockey.
Ouais.
Et il sait jouer le double, là, pas à peu près. Hein. Puis,
une version de Milan Lucic un peu plus talentueuse avant que Lucic drop. Là, mais ça reste qu'on a voulu longtemps un gars comme Lucic à Montréal, un style de Tom Wilson, quelqu'un qui est capable de saler le nez, puis qui est capable de marquer des buts. Puis, mais,
ça manque à Montréal, ça. Ça manque.
Ça fait des années qu'on n'a pas.
Carbonneau, il était tough pareil, là, ce gars-là. Il était capable de chiller haut. Stop, man. Larry Robinson, là, quand il choquait, tu ne voulais pas être là. Ça nous manque en ce moment. Oui, on a Weber. Mais tantôt, tu mets un Tom Wilson avec Suzuki et Jonathan Drouin. Là, je t'ai dit que Drouin. Tu veux voir Jonathan Drouin éclore, là, tu vas le voir. C'est ça que je trouve qu'il manque avec le Canadien. Il manque un peu de des frères Kachuk, mettons. Là.
Ah, puis on a passé à ça de l'avoir, Brady.
Ouais, mais... Ben avec non. Les séries que Kanyemi a connues, je ne regrette pas Kachuk. Je le regrette un peu, mais je ne le regrette pas.
Ouais, l'avenir, je
c'est prometteur. J'aimerais ça avoir les deux frères Kachuk avec Kotkaniemi.
Eh boy, ça va coûter cher, ça.
Oui, mais j'aimerais ça dans mes rêves. Tu sais.
Aïe, c'est vrai que ça prendrait quelqu'un de même un peu, un vrai petit baveux que tu as le goût de frapper, mais en même temps, tu le feras pas parce que le gars, il est plus fort que toi. Tu sais, ça prend un gars de même parce qu'on a des Gallagher qui sont, tu sais, qui ont du chien, mais rien enlevé à Gallagher. Là, mais
il serait meilleur encore avec Tom Wilson.
Ouais.
Il en scorerait au moins 35-36.
On a eu Andrew Shaw un peu qui a fait. Il a essayé de faire la même chose. Brandon Prost, ça reste des gars qui étaient capables de dropper, qui étaient capables d'avoir du chien, mais ils mesuraient.
C'est ça, exactement.
La différence. Exactement. Parenthèse du Canadien. Hey, raconte-nous le temps qu'on est dans le sport avant que je l'oublie. Ton anecdote, de Barry Bonds au stade des Giants. Dans le temps, je pense que c'était le AT&T Park, je ne sais pas trop, là, dans ce stade.
Oui. T'es-tu déjà allé au stade olympique voir les expos?
Ah oui.
OK. Bien, ceux qui sont allés.
T'as acheté là, ça.
Ceux qui sont allés au stade olympique, c'est un stade de vraiment pour les Olympiques. Parce qu'un stade de baseball.
Aux... comme ça.
Oui, un stade de baseball aux États-Unis, tu as l'impression d'être quasiment dans le game, peu importe où. Moi, je suis allé dans le champ gauche parce que c'était la course au record de Barry Bonds. Barry Bonds allait battre son record de circuit dépassé Hank Aaron, c'est ça, Hank Aaron?
Oui.
600, je ne sais pas trop combien.
712, je pense.
712, imagine. Puis ma sœur habite à San Francisco. Et ma sœur, ça va bien, ses affaires. Puis elle me pogne des billets parce que moi, je veux attraper la balle du coup de circuit de Barry Bonds, la balle des records.
Les billets ont dû être plus chers, cette game-là.
Je ne sais pas, mais elle ne l'a pas dit, c'est elle qui me les a offerts.
Check, tu dis qu'elle.
Oui, c'est ça. Fait qu'on s'en va là-bas avec ma nièce, c'est ça. Puis comme je te disais, là, les parcs aux États-Unis, t'es proche de l'action, mais en plus, t'as plein d'affaires pour les enfants, les jeunes. Ils peuvent aller. Écoute, t'as quasiment un parc. T'as quasiment la ronde dans le parc de baseball en plus.
Il est beau ce stade-là en plus avec la baie en arrière. Là. Wow.
Ben, ouais. Non, c'est de toute beauté. Et là, il joue contre les Braves d'Atlanta. Moi, je ne le sais pas, là. J'ai pas trop checké contre qui il jouait. La seule chose à laquelle je pense, c'est de pogner la balle du circuit de Barry Bonds. Et je me mets un hoodie de couleur rouge, la couleur des Braves d'Atlanta un peu. Hey, je peux te dire que je me faisais. Hey, wait. Je ne savais pas! Au lieu de mettre du orange. Le orange des Giants.
Ah là là.
Toute la game, les gars me surveillaient si j'allais pogner. À un moment donné, la balle, là, moi, je suis comme à côté, je suis sur le bord de tomber du building. Parce que je vois ces billets-là, souvent, il y a frappe là. C'est une fausse balle. Empilade sur moi. Je me suis quasiment fait arracher le bras.
Ah non, c'est débile. Il y a eu une bataille pour la balle. Le gars qui l'a attrapé, gars d'à côté tenait la balle. Puis ça a été quelque chose.
C'est violent. Puis il n'y avait presque pas de sécurité. J'en revenais pas parce que tu regardes ça, tu dis. Il va y avoir une bagarre générale pour cette balle-là. Là, c'est officiel.
Ah, c'est sûr.
Mais je n'y allais même pas pour est-ce que je vais être millionnaire ou si ça avec cette balle-là. Non, je voulais juste le trip du partisan de baseball qui va assister à un événement qui va marquer l'histoire. Je pourrais dire « Hey, j'étais là. » Malheureusement, ça n'a pas été cette partie-là. Il a frappé deux fausses balles. Il en a frappé une à côté de moi où... Je me suis fait quasiment arracher le chandail de couleur des Braves d'Atlanta. Puis c'était correct. Je disais, hey, quel cave de venir là avec un chandail quasiment de la couleur de l'autre équipe. Là. Oh, non. Mais tu sais, San Francisco, c'est quand même un peu froid. Tu es au nord de la Californie. Fait que c'était une journée de 14-15 degrés. Tu n'entendais pas les temps de t-shirt.
Non. C'est ça. Aïe. Ça devait être spécial en maudit. Puis quelle puissance Barry Bonds aussi de voir ça en personne. Là, c'est... J'ai déjà vu au stade olympique, là, mais c'était quelque chose. Un monstre.
Puis les Giants de San Francisco, ça, quand les expos sont partis, ça a toujours été mon équipe, vu que ma soeur avait été là. Puis M. Alou a été coach là-bas. Il a joué là.
Ben oui.
J'ai jamais été capable de regarder une game des Nationals, même encore aujourd'hui.
Ah non, ça m'a tellement écœuré quand ils ont gagné l'année passée.
Non, j'ai une haine profonde contre les Nationals de Washington. Je ne suis pas capable de regarder une seule. Je pense que je change même de poste à ce point 30 quand je vois les meilleurs moments des Nationals.
Ah non, non, quand j'ai vu célébrer l'année passée, puis en plus, quand ils ont osé mettre le chandail des Expos au mois de juillet l'année passée, manque
j'ai
de
failli
respect,
flancher. J'ai failli flancher et les regarder ce game-là. Je me suis dit, mais non, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas regarder ça.
Ben là, de voir Max Scherzer avec l'uniforme des Expos, on dirait que c'était comme... Il y a un côté de moi qui s'est dit, ah, wow, ça aurait pu être ça. Je sais pas, mais oh, non, j'aime mieux pas y penser. Puis là, quand ils ont gagné la Série mondiale, mais ça, les tabarnes.
Et c'est que ça a été un beau moment. Mais excuse-moi de passer du coq à l'âne.
Ah,
justement, parce que tu parlais d'Éric Gagné que tu as reçu l'autre jour, tu trouvais ça impressionnant qu'il redonne au monde le fun. Et c'est long parce qu'à un moment donné, je pense que tu atteins un certain point dans ta carrière où tu as envie de redonner toi aussi, d'aider les autres. Oui. Et j'ai commencé à le faire, moi, coacher les jeunes en radio à CIBL, à Radio Montréal, avant la pandémie. Alors, c'est ça. Depuis le mois de mars, je n'ai pas vraiment coaché de jeunes ou même de moins jeunes. Là, il y en a des qui veulent juste s'améliorer. Mais j'ai commencé à faire ça au monde. S'il y en a qui s'intéressent, qui nous écoutent, gênez-vous pas, là, approchez-moi, ça me fera plaisir de vous donner des trucs, des coups de main.
La radio, c'est tellement quelque chose qu'on, en tant que jeune, quand ça nous intéresse, parce que moi, plus jeune, c'était quelque chose qui m'a vraiment intéressé. J'ai pensé faire des cours là-dedans. J'ai pensé m'en aller vers ça au cégep. J'avais entendu parler du cégep de Jonquière qui l'offrait. J'avais entendu parler de ProMédia à Montréal qui offrait des cours télé et radio. Puis là, je me suis dit, c'est parce qu'on dirait que je ne voyais pas tant de débouchés possibles à part travailler dans la radio communautaire pendant une couple d'années, puis après ça, c'est quelque chose que j'ai complètement mis ça à glace. Puis plus vieux, ben là, regarde, finalement, je fais un podcast un peu un cousin de la radio en quelque sorte. Puis c'est quelque chose que je ne pensais pas autant triper faire. Puis là, je me suis dit, ben écoute, en vous recevant, je vais en profiter de la vitrine que j'offre à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui pour si tu as des conseils, si tu as des choses que tu peux dire, par où débuter pour un jeune qui veut aujourd'hui percer dans la radio, un jeune ou un plus vieux, quelqu'un qui a peut-être même mon âge qui veut percer sur le tard. Est-ce que c'est faisable juste d'envoyer un démo cassette comme dans le temps en radio et dire, hey, prenez-moi, vous allez voir, j'ai une voix de radio. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ou c'est un peu plus difficile aujourd'hui?
Bien, je pense pas que la voix a rien à voir. D'ailleurs, tu en as glissé un mot tantôt. Chaque voix est unique, dans le fond. Ben puis chaque accent est unique. L'accent, souvent, on peut dire que c'est la couleur d'une langue. Moi, je trouve ça beau, les accents. J'ai pas de problème avec ça. Mais je ne peux pas parler pour les écoles, Jonquière, le Cégep et ProMédia parce que je n'ai pas étudié la radio.
Ben non, c'est ça.
Moi, j'ai un peu un autodidacte. C'est-à-dire que j'en ai fait des heures, des centaines d'heures de radio communautaire. Et je me suis trouvé des gars aussi fous et passionnés que moi. Puis on s'écoutait, on se coachait, on se disait, on se comparait, on écoutait beaucoup de radio. Alors moi, je l'ai fait comme ça. Puis j'ai été chanceux. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé dans ma carrière. Tu sais, que ce soit Daniel Saint-Pierre à Rivière-du-Loup, qui est un homme extraordinaire pour moi, à Christian Tétrault à CKMF, qui m'a donné un autre bon conseil, qui m'a dit, Frank, il dit, si tu veux réussir et rester en radio, sois toi-même. Puis fais à ta tête. S'ils te disent de faire d'autres choses, tu penses que ça ne te rejoint pas, fais-le pas. Et la seule fois, je te dirais, où ça a été plus ou moins bien dans ma carrière, c'est quand je me suis mis à écouter des gens que j'aurais peut-être pas dû écouter. Ça a été ma plus grande erreur à moi, c'est de ma faute. Ouais. C'est parce que je leur ai donné le droit de me dire quoi faire, comment le faire.
Exact.
Alors que moi, je ne croyais pas à ça. Déjà là, si tu sais que ça ne fera pas un bon résultat. Alors, si j'ai un conseil à faire, c'est croyez en vous, soyez passionné, accrochez-vous, cherchez de l'aide. Puis si les cours, ce n'est pas de chemin, prenez ce chemin-là. Parce que de toute façon, vous allez rentrer. J'imagine que tu vas à ProMédia, tu vas à Jonquière, tu vas rencontrer d'autres passionnés de radio. Avec qui tu vas pouvoir en parler pendant des centaines d'heures et qui vont rester tes chums toute ta vie. Puis j'inviterais aussi les gens à faire de la radio en région. Il y a des belles régions au Québec qui font de la radio. Il y a des gens qui s'installent là, qui vont... Ben, moi, c'est parce que je suis un Montréalais. Je voulais revenir à Montréal. Mais, tu sais, je regarde des gars à Rivière-du-Loup, n'importe où. Ils sont très heureux là. Ils gagnent bien leur vie. Ils ont des maisons. Ils voyagent chaque année. Puis ils sont parfaitement heureux. Ils n'ont même pas de stress, de sondage, de résultats, de performance. Nous autres, à Montréal, c'est perpétuellement, là, quatre fois par année. Ah ouais, il faut que tu performes, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois numéro un. Sinon, ta job, tu l'aurais peut-être plus dans trois mois. Là. C'est niaiseux de même, mais c'est ça.
La grosse performance, la grosse pression. Puis c'est... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà fait peur, ça, le côté de la grosse pression de Montréal, que de
du jour au lendemain,
tu peux te faire remplacer, puis plus maintenant, mais au début, mettons.
C'est une angoisse que tu apprends à gérer. On l'a tous, cette angoisse-là. Mais moi, c'est pas ça qui me stresse. Moi, ce qui me stresse, c'est... il se prend pas pour un pâté chinois, là. Moi, quand je reçois mon sondage, puis je suis numéro un, je me dis pas, « Hey, yes, sors les trompettes, nanana. » Je fais comme, « Ah, OK, cool. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour le rester? » Tu sais, je pars pas sur un party, sur une balloune. Je suis juste content, je suis heureux que les gens soient encore là. Je l'apprends comme une grosse dose d'amour. C'est pour ça que je remercie le monde. Hey, sérieux, mais wow! Mais en même temps, c'est plusieurs facteurs. Tu peux être dans une station de radio qui est cinquième, sixième, puis s'il y a des cycles aussi, des fois, là, c'est juste ta station de radio là, en ce moment. C'est un peu des vases communicants. Chaque show communique avec l'autre. Donc, si le show d'avant toi ne va pas bien, c'est dur, c'est plus dur.
Exact, mais c'est pour ça que c'est important de toujours rester la tête froide, puis de vouloir s'améliorer, puis de ne pas laisser affecter trop par ces sondages-là, parce que tu peux partir complètement avec un excès de confiance ou démoraliser complètement.
Ouais, mais ce qui est cool, c'est d'être en première place. C'est vraiment cool.
Sérieux, là. Reste premier.
Honnêtement, ouais, c'est ça. Non, mais les nuits sont plus fun après, c'est sûr. Ouais. Mais mais en même temps, tu sais, oui, on le fait pas pour ça. On le fait pour connecter avec le monde.
Ben, c'est ça.
Les sondages, t'es content. Il y a plein de gens qui t'écoutent. Les patrons sont contents. Ils font de l'argent. Parce que si tu veux continuer à faire ce que t'aimes, donc t'amuser dans la vie, il faut qu'il y ait quelqu'un au bout qui fasse de l'argent. Si c'est tu lui fais faire de l'argent, il va continuer à te laisser là pour lui faire de l'argent.
Exact.
On vit dans un monde de business. Je comprends ça. Je comprends la game. Alors,
c'est pour ça que je t'en parlais tantôt. C'est pour ça que je te parlais de cette question-là tantôt, un peu comment débuter à la radio, parce que je me disais, tu sais, on est dans une époque que moi, mes parents me disaient, ben, tu sais, mon père, mettons, regarde, moi, dans le temps, si tu veux percer dans n'importe quoi, exemple, tu joues au hockey, ben, tu connaissais quelqu'un qui savait que tu étais bon, ben, allait te donner une chance, ou tu sais, tu faisais juste aller cogner aux portes, puis démontrer ton vouloir, puis la personne t'essayait. Mais bon, aujourd'hui, on dirait, pour l'avoir vécu souvent dans mon ancien métier, la vente, tu peux être très, très compétent, tu peux être le meilleur vendeur au monde, mais quand tu arrives dans une grosse entreprise, puis ils regardent en premier ton CV, t'as-tu un bac, t'as-tu ci, t'as-tu ça, t'as pas ça, même t'as 10 ans d'expérience, on s'en fout, t'as pas un bac, on te considère pas, tu sais, il y a beaucoup de grandes entreprises que c'est ça aujourd'hui, puis c'est vraiment vrai, je l'ai vécu souvent, puis je me disais, la radio, est-ce que c'est un peu ça, est-ce qu'ils cherchent encore des gens qui ont absolument un diplôme en radio, ou tu peux faire tes classes en région, puis dire, regardez, je suis un gars qui a de l'expérience, je suis un gars qui est capable de délivrer, puis je vous garantis un bon résultat.
C'est une bonne question, honnêtement. Là, je ne le sais pas. Je ne peux pas te dire.
Ouais, c'est sûr, c'est pas ta job non plus d'embaucher, là, mais c'est plus savoir s'il y a des gens qui se demandent.
Mais je ne peux pas te dire, mais dans n'importe quoi, ça prend de la chance.
Ah oui, oui. Des bons contacts, je sais, ça l'aide.
je ne sais pas. Moi, je n'avais pas de contact. Je connaissais personne dans ce milieu-là.
Tu les as faites avec le temps, en fait.
Ben, je me les ai faites pas tant que ça, même, parce que moi, je suis tellement un enragé. Quand la saison commence en radio, je vais te le dire bien honnêtement, mais quand la saison commence, moi, je suis en série, là. Je déteste tout le monde de mes compétiteurs, là. Je les haïs toutes, là. Je joue pour mon équipe.
Ben ouais.
Mon équipe, c'est quoi? C'est le 96-9. Mes collègues, c'est mes coéquipiers, puis je leur passe des pucks, puis on compte des buts. Puis... Mais ça, c'est parce que moi, j'ai fait du sport dans ma vie. Je vais jouer au football longtemps. Alors, l'esprit
de
pour moi, c'est super important. Je ne me mettrais pas à aimer d'autres gars, d'autres filles dans d'autres stations de radio. Non, là, pas pendant une série, pas pendant que je joue. Je m'excuse. Je suis là pour qu'on gagne, notre équipe gagne.
Exact.
Mais pour répondre à ta question, les jeunes qui commencent, d'où je pense l'importance de aller en région, de venir prendre confiance en toi, développer ta game, puis faire une démo de radio, l'envoyer. De faire, au moins, c'est déjà ta carte de visite, ta carte de présentation.
Ça. C'est ce qui va t'aider à te présenter, c'est ton meilleur CV.
Je pense que oui. Puis après ça, si tu es engagé, tant mieux, il y a une ouverture. Et là, ensuite, ben, c'est, est-ce que tu supportes la pression? Es-tu capable de faire ce métier-là? Il y a des. Je ne sais pas te raconter une anecdote. Il y a un gars, il est venu travailler à Sequoia. Ils ont dit OK, parfait, t'as un job à Sequoia, mais là, on va t'essayer. Puis il a ouvert le micro, puis il n'y avait pas un son en onde. Il a figé, il s'est évanoui, il t'a entendu. Il s'est évanoui, il y a un plan en onde, il n'y a rien.
C'était pas dans les grandeurs d'écoute.
Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom. Alain. Son prénom, c'est Alain.
Alain Dumas?
Non, c'est pas Alain Dumas.
OK, c'est pas grave.
Alain.
On va en rester là.
Je peux pas.
Non,
c'est
je veux
plus
pas,
loin que je peux aller. Fait que c'est, puis après ça, ben, si ça va bien, je regarde Joanny Duquette, c'est quoi, qui fait le 55 minutes de hit le matin à 9h. Elle est rentrée à Sequoia, elle a commencé les fins de semaine. Puis ses chefs sont bons, ça va bien, les gens l'aiment, elle connecte avec le monde. Puis,
c'est ben, ça, c'est connecté avec le monde.
Ben ouais, puis elle a une promotion, là, elle est rendue café de 9h à midi les jours de la semaine. Puis tant mieux pour elle, parce que c'est une chouette fille, là, elle est bonne, elle est fun, elle est trippante. Moi, sa mère, en plus, Guyane, parce que Joanny est née le 9 juin, moi le 8 juin, elle nous appelle ses enfants. On a les mêmes cheveux, les mêmes waves de cheveux. Fait que c'est ma sister en onde, Jojo. Puis, fait, c'est le plus bel exemple que je peux te dire là, récemment. Là, récemment, Joanny Duquette, qui fait super job, là, elle est fun.
Parce qu'il y a beaucoup de mouvements à la radio aussi. On voit souvent les gens qui changent soit de case horaire dans la programmation ou des gens qui changent de station aussi parce qu'ils se font recruter par une autre station, etc. C'est un peu normal. Là, on est dans un monde qui y a de la sollicitation à gauche, à droite, un petit bonus par-ci, un petit bonus par-là. Puis c'est normal qu'on est humain. Là, on a le goût d'essayer d'autres choses aussi. Là. Mais ça fait partie de la game.
Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai connu 5 propriétaires. J'ai connu bien des directeurs de programme.
Ça bouge.
Ça bouge.
Exact.
Ça bouge.
Hey, je pense à ça. T'as-tu déjà eu ça, toi, un blanc en onde ou un moment, tu sais, un moment qui te vient que tu dis, hey, je veux plus jamais que ça m'arrive à nouveau, ça?
Bien, n'importe quel animateur, animatrice de radio fait ses appelle ça le cauchemar récurrent de l'animateur de radio. Là, tu te réveilles pendant la nuit, tu te dis, tiens, il y a un blanc en onde. Mais est-ce que tu me poses cette question-là parce que tu es au courant de quelque chose?
Pas en tout.
Tu n'es pas au courant pas en tout?
Non, zéro moins de bord.
Moi, là, je suis dans le livre des records une couple de fois. Là.
Ah ouais?
J'ai le plus long blanc de l'histoire de la radio à Montréal. Ah ouais? 2h37.
Mais non.
2h37 de blanc en onde, c'est quoi?
Ben voyons. Ouais. Comment t'as fait?
Ah ouais. Parce qu'à l'époque, le building était à Verdun. La machine à café ne fonctionne plus en rez-de-chaussée à Sequoia. Au deuxième étage, tu as le 98.5. Puis au troisième, tu as The Beat, 92.5. À Verdun, c'est trois stations-là. Fait que là, moi, je décide de monter en haut. Mais c'est une porte comme en métal. Avec le code pour rentrer, c'est le même code que pour rentrer dans le building à Sequoia. C'était 14, je me suis 35, je ne sais pas trop quoi. Là, une affaire de job capture.
Chance qu'il n'existe plus.
Ouais.
17-35 peut-être.
Fait que je rentre le code, c'est beau, je vais au deuxième étage, je m'en vais prendre un café au 98.5. Pour ressortir de la station, il y avait un code qui était différent. J'en barrais là.
C'est
une porte en métal avec une vitre ça de long. Ils vont te le dire en radio, là. Si un blanc en onde casse la vitre, défonce la porte, rentre. Sors de là, empêche le blanc en onde. Fait que 2h37 plus tard, quelqu'un de Beat est venu enfin m'ouvrir.
Aïe, aïe, aïe. T'es-tu capoté pendant ce temps-là?
Capoté! Les gens m'en parlent encore.
Aïe.
Non, mais les boss ont été super contents parce que j'ai replacé 2h30 de pub dans les 2h30 de show qui me restaient ailleurs. Fait que ça faisait des blocs spots de genre 8 minutes et demie. Mais ils m'ont félicité au meeting. François, il a fait la bonne chose. Il a replacé des publicités.
Non, c'était Pierre Bruno, ton boss.
C'est Claude Doyon. Claude Doyon, que je
vite de même, on dirait Pierre Bruno.
Bon boss, c'est un chic type. Allez, wow. Claude Doyon, c'est un bon boss aussi.
Mais c'est ça, je me disais. Ouais. Il y a souvent des animateurs qui n'ont pas nécessairement un blanc, mais tu sais, ils se mettent à bafouer. Puis ça m'arrive des fois au podcast aussi. J'ai la beauté d'avoir le montage, mais même des fois, je ne le coupe pas parce que je dis, garde, un podcast imparfait. Si je serais live, écoute, j'ai un blanc où je me mélange dans 2-3 mots. Puis là, faut de suite, tu sais, dans ton cerveau, on dirait que ça se met à patiner. Tu sais, moi, je le sais que je ne suis pas en direct, mais je le sais que si je me mélange dans un mot, j'ai peur que ça fuck tout mon podcast après. Tu sais, c'est niaiseux, mais toi, tu es en onde, en direct. As-tu peur des fois de dire un mot? C'est pas ça que je veux dire. Puis là, d'avoir une hésitation, d'avoir de la cave, là, tu sais.
Ça peut arriver, mais je te dirais qu'avec le temps, avec l'expérience, ça nous arrive moins.
Ça part.
Mais en même temps, je fais pas du parler comme toi. Parler comme une demi-heure, une heure et demie. Moi, c'est 35-40 secondes.
C'est ça.
Très synthétisé, condensé.
C'est vrai que c'est pire encore. C'est pire parce que tu ne peux pas te mélanger en 30 secondes. Il faut que ça soit quick.
Ben, je te dirais que le style d'animation de radio des années 80 que j'ai changé, c'est là que ça vient la différence. Un micro, ça respire. Tu n'es pas obligé d'être une mitraillette, d'avoir l'air d'un gars ou d'une fille.
C'est vrai que c'était plus rapide avant.
Ouais. Tu as l'air d'animer une compétition de tracteur au stade olympique. Moi, je trouve ça inévitable. Il y a toi qui écoutes des sports, des stations de sport, là, écoute, c'est un fléau, là. Il y en a des éléments. C'est que ça, là. Il me crie après. Hey, je suis dans mon salon, mon gars, là. Je suis relax. Pourquoi tu me cries après?
Alors, on n'aimera pas de nom, mais j'en ai un en tête qui est un ancien goût du Canadien. Bon.
en radio, un micro, ça respire.
Ouais.
C'est comme quand je parle, j'ai une conversation avec quelqu'un, je te parle à toi, je vois pas. Hey, salut Antoine. Prends mon souffle. Alors, c'est un peu ça, la radio. Quand je rentre, quand j'ouvre mon micro, je sais à peu près, je sais où je m'en vais, je sais comment ça commence, je sais comment ça finit. Dans le milieu, il peut se passer quelque chose, mais je sais, j'étais déjà dans ma tête, je l'ai déjà dit 2-3 fois, je sais à peu près exact. Parce que pour moi, un bon micro, c'est comme une bonne blague. Ça peut toujours être meilleur.
Exact.
Donc, c'est pas parce que ma première idée, je pensais qu'elle était extraordinaire, qu'elle peut pas être encore meilleure. Alors, je vais essayer ou chercher à l'améliorer tout le temps.
Tellement bon. Puis, y a-tu quelque chose, un moment qui t'est venu, que t'as dit pendant ta carrière, en fait, de radio, là, que ce soit, je sais pas, une entrevue ou un petit moment que t'avais, que ça a complètement dégénéré, exemple, que quelque chose tu t'attendais pas à ce que ça commence comme ça, justement, parce que tu dis c'est comme ça, puis c'est comme ça au final, tu sais à quoi t'attendre. Mais y a-tu un moment que ça t'a complètement déstabilisé en autre?
Je sais pas. Y a pas grand-chose, mais. Les gens qui ont de l'autodérision, là, moi j'en ai, je suis capable de rire de moi. Les gaffes que je vais faire, je vais en rire. Là, je vais être
c'est peut-être ta force.
Le premier à trouver ça drôle, là, je me plante. comme à l'époque où, avant les téléphones cellulaires, où les gens pouvaient recevoir 2 lignes, où le signal, le son était meilleur, on n'enregistrait pas les auditeurs, les auditrices, on les passait souvent live. Ça ne m'a jamais dérangé. Quelqu'un dise de quoi qu'il ne fallait pas qu'il dise en nombre.
C'est ce que les gens
m'en parlaient. Les gens se souvenaient de ce moment-là plus que d'autres choses. Mais non, j'ai entendu des histoires de gens qui se sont plantés, mais souvent, c'est des grossièretés. Mais non, je ne sais pas. Honnêtement, non, je sais pas.
Ben,
jamais
c'est pas grave. Tant mieux, on te le souhaite pas, en tout cas. C'est tellement malaisant.
Ça me dérange pas. Non, mais je voudrais, comme n'importe qui, j'ai déjà parlé à des auditeurs sans en ondes pendant qu'une toune jouait. Là, il y a des erreurs techniques qui arrivent comme ça.
Ça arrive au meilleur, regarde.
C'est pas la preuve.
Martin Méguire.
J'ai parlé à Martin, d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est de la super belle pub.
Ah oui.
Tout le monde parle de toi, mon gars. Il dit,
pas pour les meilleurs.
Ça... c'est drôle. Honnêtement, j'ai pas entendu, mais ce que j'ai entendu de ça, je dois dire, honnêtement, c'est normal. Là. Le gars, là, il est habitué d'être sur place, de faire sa job. Il n'est pas capable de faire sa job comme du monde parce que l'autre est avec sa caméra.
Puis il gossait dessus, cette caméra-là. Excusez-moi, là, mais la pire prise de vue de l'histoire du hockey pendant un power play, je la voyais pas à pas. Je disais, où? Elle a changé de caméra.
Mais non, c'est mauvais. Ouais, puis à sa défense, lui, là, quand il est dans sa bulle, il est en mode spectacle. Il est en mode adrénaline dans le tapis.
Ben,
il pense que le micro est fermé. Là. Ben, c'est des émotions, ça se gère. Donc, lui, il sort son « pour revenir tête après, pour être tout là. Il faut que tu sortes ton agression. Ben oui, il est solide.
C'est un homme de cœur.
C'est un gars intelligent. C'est un gars brillant. Je ne pense pas que personne y en veut. Lui, il se sent probablement mal de ça. Mais honnêtement, moi, je trouve que... Parce qu'il y a bien des auditeurs qui m'en ont parlé. Qu'est-ce qui se passe de ça? Je trouve ça drôle. Ça nous arrive tous.
C'est pas
la première erreur. C'est pas la dernière en radio. Il m'en arrive plein de même.
C'est-tu déjà arrivé à tout le monde qui nous écoute? Ouais. A sûrement déjà sacré dans son char pour une journée de job ou quelque chose qui est arrivé. Il a perdu patience complètement. Là, voyons donc.
Mais moi, ça m'est déjà arrivé avec le micro de Claude Poirier. J'enregistrais une pub. Claude Poirier faisait des chroniques sur différents postes, à Verdun encore. Il avait oublié de fermer, il avait oublié, Claude, de baisser sa slide. Fait que je passais au 730 AM en simultané.
Ah non.
Puis j'étais avec une productrice qui s'entraînait, puis elle me dit, hey là, honnêtement, tu sais, les choses que tu peux pas dire en 2020, là. Elle me dit, hey, tu savais comment mes cuisses, mes fesses sont dures, c'est fou, nanana. C'est ma bonne chum, là. C'est juste une amie, là. C'est, on a du fun, on rit ensemble. Je dis, oh, ouais, je peux-tu toucher à ta cuisse? Elle dit, ben non, tu peux pas toucher à ma cuisse. Ah, je dis, come on, je vais juste toucher avec le bout de mon doigt. Moi, c'est dur. Elle dit, OK, vas-y, touche-y. Je dis, aïe, c'est bien dur. Fait que ça passe en onde au 730.
En plus, au 730.
Pendant que l'autre anime. Fait que ça aussi, ça a fait époque. Là. Ça, c'est resté dans les annales de la radio.
Ouais, tu veux pas que ça soit
tout le monde. Arrive à tout le monde d'oublier de baisser un micro et de dire des niaiseries. On est des humains. On n'est pas des robots.
Aïe. Puis, tu sais, on parlait de gaffe, mais du côté positif, le moment le plus marquant positivement, quelque chose que tu vas te rappeler toute ta vie, tu dis ça, là, c'est mon. Que ce soit ton fait d'arme de ta carrière ou un moment que tu vas dire ça, là, j'oublierai jamais ça de la radio. Il y en a beaucoup, j'imagine. Peut-être un moment avec les Justin Mathieu aussi, je ne sais pas.
Non, je te dirais, chaque fois que j'ai le privilège, la chance, chaque fois que je rentre à la station, on parlait de se mettre en mode spectacle,
extérioriser.
Mettre dedans, je te dirais que chaque fois que je rentre à la station de radio, à C'est quoi, chaque fois que je prends le téléphone pour parler à un auditeur, chaque fois que je réponds à quelqu'un,
t'as le même feeling.
J'ai le même plaisir, la même joie, le feeling de la première fois, là, la première fois que tu vois la mer, la première fois que tu vois la fille de tes rêves,
C'est bon que tu le dises, ça.
À chaque fois, j'ai ce même feeling.
Ça me rassure tellement que tu le dises, parce qu'il y a bien du monde qui te disent le contraire, puis c'est le fun que t'en parles, parce que c'est tellement ça. Tu sais que moi, j'ai commencé à faire de la photo il y a 3 ans, sportif professionnel, puis moi, c'est un maniaque de sport. J'imaginais juste un jour mon rêve au Centre Bell, au Stade Olympique, prendre des photos des athlètes sur le bord. J'ai parlé à un autre photographe sportif que je nommerai pas parce que je ne veux plus en entendre parler, mais qui fait ça de sa vie, qui est vraiment un des 10 chanceux au Québec qui vivent de ça. Puis lui, il était au Centre Bell à tous les matchs, tout le temps. Puis il m'a dit, écoute, j'ai dit, comment ça va? Ça doit triper, toi, chaque jour. T'es sur le bord de la glace, tu vois, Carey Price en avant de toi, ça doit être trippant. Il m'a dit, tu sais, il dit, oui, c'est trippant, 10-15 games. Il m'a dit, à un moment donné, ça devient redondant, puis tu vois ça comme un travail, mais faut pas t'oublier que c'est un travail, faut pas que tu sois impliqué émotivement. Mon Dieu, c'est déprimant. Puis là, j'espérais tellement pas que ça arrive. J'ai dit, je veux jamais vivre ça. Je veux toujours être passionné, tu sais. Puis c'est jamais arrivé encore. Là.
Mais c'est parce que tu as compris qu'aussi la photo, c'est de l'émotion, c'est artistique. Oui. Donc, tu viens travailler sans émotion, ça se peut que tes photos n'aient pas beaucoup d'émotion.
Ça paraît. C'est vrai. C'est vraiment vrai.
Ben oui, mais à sa défense, le Canadien, il serait temps qu'il se remette à gagner. Il aurait peut-être plus de fun.
Ouais, ça, c'est clair. Ouais, non, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé, mais tu sais, c'est un peu décourageant parce que c'est le fun d'entendre des vrais passionnés comme toi. Je t'écoute et je me dis, je me suis dit en même temps, quand est-ce que sa carrière va prendre fin, je le vois pas le bout parce que je pense que tu vas faire ça jusqu'à ta mort. Tu vas mourir en nombre de ça.
Guy Brouillard, qui est au Temple de la Renommée, qui est le directeur musical de C'est quoi, m'a dit une des plus belles choses de ma vie, mais ça demande. Je pense beaucoup d'amour et de passion de ce métier-là et des gens. Il m'a dit, François, tu es un des rares qui, je pense, va pouvoir se faire ce métier-là toute ta vie.
Comme
Mario Lirette. Alors, j'ai dit, waouh, merci. Venant de Guy Brouillard, en plus, qui a aussi été mon mentor, mon coach, ça m'a. Parce qu'il me disait pas. Guy, c'est pas le genre de gars à dire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Il fallait que ça soit senti, que ça soit vrai. Puis il m'a écrit récemment. Il dit, François, il dit. T'es encore l'âme de cette station-là. Je t'en parle, je suis ému, j'ai l'âme aux yeux. Si tu savais à quel point j'aime C'est quoi, tu te doutes même pas. Là. J'ai un amour pour cette antenne-là, ce poste-là, pour les gens qui l'écoutent, qui est fou. Quand j'ai envoyé ma demande d'emploi qui n'a pas été acceptée à l'époque, avant d'être engagée à CKMF, je suis dans la radio comme longtemps, j'avais dit dedans, je m'en souviens encore, j'avais dit que C'est quoi, je voulais que ce soit la femme de ma vie, celle que je voulais avoir à mes côtés pour le restant de mes jours. Wow. Je ne sais pas si quelqu'un a gardé ça. Il faut que tu fasses une lettre de présentation.
Tellement.
Je me souviens que j'avais écrit ça dedans.
Ils ont dû dire, il est intense, alors, le gars.
Je pense que oui. Ils ont dû dire ça. Ils ont dit, il est fou. Alors, il veut marier.
On l'engage.
Il n'est pas bien entre les deux oreilles.
Alors, tu as démontré ton intérêt.
Et on parle des, je parle des auditeurs et des auditrices. J'ai tellement de bons amis à qui qui m'appellent. J'ai hâte d'y retrouver.
Conjoint qui est devenu.
Oui. Alain Forêt, à Vanna Plomberie, qui, c'est mon, avec Marc Hugo, c'est mon meilleur chum. Je l'ai connu comme auditeur.
C'est fou.
Et j'ai plein de bons. Mes meilleurs amis viennent de c'est quoi ma femme, c'est quoi mon. Je faisais.
La radio t'a apporté quelque chose de tellement bien dans ta vie.
Tellement à chaque jour. Puis on parle de musique. J'ai hâte d'aller écouter ma tune préférée. J'ai hâte de savoir c'est laquelle la tune préférée du monde ou 6 à 6. J'ai hâte de la jouer dans Radio Hollywood la fin de semaine. J'ai hâte d'entendre une nouveauté. Je suis fier d'avoir été le premier à jouer Lady Gaga. Je suis fier de l'avoir mis numéro 1 171 fois au 6 à 6, qui est l'ultime record. Avant ça, c'était, ça a été, je pense, 80 fois de Denis. Moi, je voulais faire un statement. Je voulais dire, « Ouais, toi, tu penses que t'es capable de bien vendre une toune 80 fois numéro 1? Check-moi bien, allez. » Je l'ai plus que doublé. Je faisais des meetings avec mon coach, Marc Hugo, le soir, savoir comment je peux vendre cette toune-là encore pour que les gens l'aiment. Ça a été le tu parlais de fait d'armes. Ça a été un de mes faits d'armes. Essaye de vendre une toune 171 fois numéro 1. Là. Reviens me voir quand tu vas accomplir ça. Parce qu'il y a 365 jours dans une année. Lady Gaga nous appelle encore à C'est quoi pour nous remercier à chaque Noël.
Ah ouais.
Ben oui.
Alors, mais c'est vrai, vous en avez découvert plusieurs artistes comme ça. Il y a, à part Lady Gaga, je veux dire, il y en a-tu. Adele aussi, il me semble que
c'est. Madonna.
Oui.
Madonna, Melissa Etheridge, All and Out. All and Out, je ne sais pas, c'est vieux, là, les gens
c'est qui plus sont. Vieux, ça, ouais.
C'est plus vieux un peu, oui. C'est plus vieux. Mais non, à chaque semaine, on découvre du stock.
C'est ça qui est le fun aussi.
Alors, oui, mais. C'est quoi, c'est bâti sur ce que les gens veulent entendre? On leur propose des tunes qu'on aime, des choses qu'on aime, mais après ça, c'est les gens qui décident
les si gens qui décident.
On va la garder ou pas. C'est ça, c'est quoi? Ça a toujours été ça. Contrairement à toutes les stations que je connais de l'univers, c'est pas un palmarès qui est bâti à partir des palmarès des autres pays ou de ça. C'est vraiment bâti par rapport à ce que les gens, la fibre de c'est quoi, son matériau le plus solide a le goût d'entendre.
Wow, c'est puis vraiment.
On écoute le monde, tu sais. C'est,
ouais,
c'est
à chaque année, on découvre des gens. J'ai découvert, moi, je me souviens encore LMFAO. Il y a un jour que je me promène en voiture en 2011, puis en pleine heure de pointe, puis le show du retour. On a découvert un jeune groupe, un duo prometteur, et on fait une toune. Elle s'appelle Party Rock. On va vous la mettre, puis il semble que ça va mettre du pep dans votre été un peu. Et là, j'écoute ça. Il y a quelque chose, ça va faire un buzz, cette chanson-là. J'ai un feeling, puis écoute, tu donnes un party pendant 2 ans, là, mais tu sais, ça a complètement dégénéré.
En 2011, c'était ton premier char, t'as sorti à Chainsaw, c'était fait un trou ouvert, hein, t'as un
run. C'était pas loin, 2010, ça a été mon premier char, fait que j'ai le vieux Corolla avec la fenêtre manivelle, là, puis 324 000 km, je l'ai brûlé.
Mon deuxième char, le Corolla, tabarnouche.
Pas tuable, je l'ai vendu à mon meilleur chum, il l'a encore, je l'ai vu hier avec, t'es rendu à 400 000, il brûle pas. L'enfer, pour vrai, là,
moi, je l'ai donné à mon père.
Ah ouais?
Mon père l'a gardé. Pourquoi tu veux ça? Il dit, je roule pas, je suis en retraite. Parfait, prends-le. Il l'a gardé pendant 5-6 ans de temps. Moi, je pensais que c'était rendu une poubelle.
Ben, c'est ça. Mon chum me l'a racheté à 1 000$. Il m'a dit, penses-tu que ça va me te faire un été? J'ai dit, dans 4 ans, on s'en reparlera. Ça a fait 4 ans. Puis là, j'ai dit, puis, il est encore content. Il dit, il brûle pas, le sale. J'ai dit, tu réussiras jamais dessus. J'ai tout essayé, il meurt pas.
Ça même pas d'huile dedans.
Non, écoute, lui, je pense quand même pas, là, mais j'ai fait ça quand même attention, mais écoute. Écoute, le temps file, puis je voulais te parler. Je sais que l'autre jour, tu m'avais vaguement parlé de quelque chose qui m'a quand même un peu touché parce que dans tout de ce que je fais en ce moment, ma carrière avant était d'être photographe et conférencier dans les écoles. Puis dans les conférences que je donne, j'essaie d'inspirer jeunes par mon parcours en photo, de leur dire « Faites ce que vous aimez dans la vie. » T'sais, croyez, vous avez un rêve chacun. Ouais. Moi, c'était mon rêve. Tu parlais tantôt de la présentation. Tu avais écrit à C'est quoi? Moi, 6e année, j'avais écrit dans mon journal des finissants de 6e année, fin du primaire. Puis il fallait dire ce qu'on voulait faire dans la vie. Moi, j'avais dit « Je vais être photographe, sportif, professionnel.
»
À l'âge de 11 ans, j'avais dit ça. Puis c'était clair pour moi, j'allais faire ça. Puis à l'âge de 12 ans, j'y pensais déjà plus. C'est pourquoi? Parce que mes parents étaient quand même corrects là-dessus. T'sais, ils m'ont jamais incité à « fais ça, fais ci, fais ça ». Mais j'ai été comme un peu influencé par tout ce qu'on entend de, tu sais, les mononcles, ma tante, qui disaient « puis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Puis, tu sais, « job stable », puis tout ça. Ça a fait que, déjà, à cet âge-là, dans ma tête, « oublie la photo, c'est pas un bon métier pour moi ». Puis, j'ai complètement oublié ça jusqu'à l'âge de 25 ans. Imagine, ça a pris quand même longtemps, jusqu'au jour où j'ai décidé de le faire, puis d'en devenir un professionnel. Puis, c'est ça que je veux donner comme conseil aux jeunes, de dire « garde, vous avez chacun un rêve, mais oubliez-le pas. Puis quand vous êtes passionné chaque jour, là, c'est tellement plus trippant de se lever et d'être passionné de ce qu'on fait. Puis comme tu le fais aussi très bien. Puis ce que tu as dit l'autre jour, c'est que dans le fond, ton père est ingénieur, ta sœur aussi. Puis c'était peut-être pas le choix qui aurait fait l'unanimité dans ta famille d'être un animateur radio. Non. Tu l'as quand même fait, t'as fait à ta tête. Ça n'a pas dû être facile non plus.
Moi, ce qu'il m'a dit, il y a bien des gens qui vont dire, mais non, on ne fait pas ça. Moi, mon père, il dit, tu ne veux pas être pauvre toute ta vie, là, boire, manger du pain, boire de l'eau, là, la radio, hein, on est artistes. Qu'est-ce que tu fais là?
Artiste.
Donc, mais je ne sais pas pourquoi il y a. Puis mon père m'a payé des bonnes écoles, une bonne éducation, puis je suis content parce que ça m'a permis plein de choses, plein de belles rencontres. Mais je suis content aussi de ne pas avoir écouté tous ses conseils parce que. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je n'ai jamais eu de plan B. Je me suis toujours dit c'est dur de réussir ton plan A. Quand tu as un plan B, un plan C et un plan D, ça te donne plein d'excuses pour ne pas réussir ton plan A.
Ouais.
Alors, je n'ai jamais eu de plan B. J'ai un plan A, puis j'ai encore juste un plan A.
Mais rendu là, c'est ton plan de carrière. C'est dans ton cas.
Je veux dire, j'ai fait avec le temps des bons placements. Un moment donné, j'ai arrêté de tout flouber. À un moment donné, j'ai pogné 34, 35. J'ai dit, bon, j'arrête de tout dépenser comme un enragé, sans pas d'allure. Ouais. Puis j'en faisais. Là, à un moment donné, tu deviens plus sérieux. Tu t'achètes une maison. Là, tu dis, waouh, ça gagne en capital. Tu fais. Donc, c'est plus rassurant aussi de continuer ton plan A, mais ouais, c'est comme tu dis, si tu oublies ton plan A, il y a bien des chances que tu ne réussisses pas ton rêve.
C'est le meilleur exemple parce que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs avec le podcast, puis à travers ma carrière, puis chaque personne, il y avait quelqu'un qui m'avait donné le meilleur conseil que j'ai eu, c'était ça. Si tu as un plan B, tu ne réussiras jamais ton plan A parce que c'est toujours ta béquille, c'est ta porte de sortie, puis tu vas toujours... Tu ne vas pas t'impliquer à 100%. Tu vas t'impliquer à 75% parce que tu vas toujours garder un 25% de « OP, si ça ne marche pas, je vais aller vers là. » Puis c'est vrai que c'est le même que ça fonctionne parce que c'est carrément ça.
Ben non seulement ça, c'est que moi, quand j'ai commencé mon plan A, je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je veux dire, moi, quand je suis parti à Rivadio, je n'avais pas d'argent. Ce n'était pas payant là, au début. Ben là. Je vivais dans un walk-in avec un matelassin qu'on m'avait donné, un rempli de pisse dessus. C'était dégueulasse. Là. Je vivais dans un walk-in.
Ça donne le goût.
Dans un walk-in. Quand j'étais capable de me payer de la viande hachée, c'était chic là, chez nous. Là. Je vais me faire un bon macaroni. Après, la deuxième année, ben, je suis resté un an et demi. Les six derniers mois, bon, ça a été plus payant. Mais à un moment donné, tu peux pas tout le temps dire « Ouais, mais c'est parce que là, moi, je vais faire mon plan B. Ton plan A ne marchera jamais. Jamais. »
Ah non. C'est la même chose. Quand j'ai lâché mon ancien job, j'avais là, 2 ans dans la vente. Écoute, je faisais des excellents salaires puis pour faire fuck all pendant 6 mois comme photographe parce que j'y croyais. Puis je me disais je vais y arriver. Quand tu as ton premier contrat qui te donne 200$, 6 mois, c'était mieux qu'une vente de 2000$ de commission. Ben, là, ouais. C'était de la gratification parce que tu dis « Là, je l'ai accompli ce que je voulais tellement, mais j'y ai cru. Puis, c'est la même chose avec toi quand tu as eu ta première bonne paye. Là, ton steak haché goûtait bon. Là,
je capotais. Mais non, mais c'est le fun. Je pense à n'importe qui. Là, on parle de musique. Un gars qui commence, il reçoit une guitare, il joue dans sa chambre, il n'oublie pas son rêve. Après ça, il se fonde un band, il va dans son garage, il joue dans un garage. Après ça, il joue dans des petits bars. À un moment donné, quelqu'un dit hey, je peut-être dois te payer. Il reçoit son premier chèque dans un bar. Si son rêve, son plan A se nourrit, s'auto-nourrit comme ça, puis à un moment donné, ça fonctionne. Il y en a plein de belles histoires comme ça. Là.
Ah, tellement.
Mais je souhaite aux gens qui ont une passion de s'accrocher à ça. C'est sûr qu'il y a plein d'étapes où tu dis « Oh my God, c'est tough, oh, j'ai tout lâché. » C'est normal. Là.
Quand, tous les jours, il y a des fois une petite pensée qui te passe, mais ceux qui vont réussir, on passe au niveau musical, combien de fois les Beatles se sont fait dire qu'ils ne feraient rien dans la vie, combien de fois les Rolling Stones, U2, se sont fait refuser à plein de places, mais au bout de la ligne, aujourd'hui, on imagine ça, c'est improbable, c'est des bandes légendaires. C'est,
les Beatles! Il disait que c'était un boys band, ça allait durer 6 mois.
C'est qui, je pense, Universal, qui n'avait pas voulu signer. Je ne suis pas trop Columbia, je ne sais plus trop quoi. Une grosse maison de disques qui avait dit « Ah non, on ne ferait rien dans la vie, vous autres. »
Ouais, c'est fou.
Ouais, c'est assez incroyable.
Ouais.
Écoute, c'est vraiment exceptionnel. Puis en terminant, j'ai une dernière question qui m'est venue en tête. Tu parlais de Lady Gaga tantôt. Lequel artiste t'a le plus marqué par que ce soit sa générosité, sa gentillesse, comme un peu tu dis Lady Gaga nous appelle à Noël, ben tu sais, y a-tu quelqu'un qui te vient en tête, tu dis hey, cette personne-là, vraiment, là, ça a été une rencontre mémorable dans ma carrière.
Je vais t'en nommer quatre. Je vais t'en nommer quatre. Je peux pas passer à côté des quatre. Ma première rencontre avec Pink. Qui était jeune, a lancé son premier album. super gentil. Il paraît qu'il est encore très, très gentil. Mais pour moi, ça a été important. C'était ma première entrevue à C'est quoi que je faisais.
Quand même, hein?
Ma deuxième, Lady Gaga. Lady Gaga parce que j'aime Lady Gaga, puis elle m'aime, puis je l'aime, puis je l'ai vu, on s'est rencontrés, puis historique, c'est quoi. Mais celle que j'ai le plus appréciée du côté des gars, c'est Chad Kroeger de Nickelback, qui en passant aux États-Unis est le meilleur vendeur après les Beatles dans l'histoire de la musique. Là.
Quand même. Hein?
Chad Kroeger, tout le monde disait « Ah, ben, tu vois, il est bête en entrevue. » Moi, j'arrive là-bas, je compte 2-3 jokes, man, on rit. Hein. L'entrevue était censée durer 5 minutes. Je pense qu'on a ri pendant 25 minutes, une demi-heure, puis je parte. On s'est échangé nos numéros de téléphone, tout. Anyway, fait que c'est resté un bon chum. Mais ma plus belle, par-dessus tout, c'est être au paradis aujourd'hui, Dolores O'Riordan, la chanteuse des Cranberries.
Ah, ben oui. Oui.
Elle,
Zombie.
4 pieds 11, 5 pieds, pas très grande. Son gérant, son mari, un Canadien, 6 pieds 5. Fait que je pense, là, on me dit, Dolores O'Riordan et Cranberries, c'est arrivé, va donc la chercher à l'entrée dans Place Bonaventure, ils sont un peu perdus. Et moi, je ne la reconnaissais pas. Je pensais que c'était un enfant avec son père. Tu sais, sur le coup, je suis mis up, je ne vois pas très bien de loin. Jusqu'à ce que le gars me dise, tu peux voir que je l'ai cherché. Fait que finalement, on fait notre entrevue ensemble. Elle est fine. Moi, j'ai toujours aimé le Cranberries. Sa voix qui chante avec ses tripes.
Une voix unique.
Ben là, je suis en amour avec elle. Pas des fans, je parle pas en amour physiquement, mais émotionnellement, artistiquement, je suis en amour avec elle. Puis là, elle me dit, viens-tu voir mon show à soir? Je dis honnêtement, j'ai essayé d'avoir des billets, c'est sold out, il n'y en a plus. Elle dit quoi? Elle dit non, hey, tu n'y es pas que deux places. Lui, elle a dit ça à son mari, à son gérant, il s'en vient. T'as un backstage, tout le show. Après ça, elle vient me voir. Elle me dit, « Be Frank, t'as-tu aimé le show? » J'ai les larmes aux yeux, tellement j'ai trouvé ça. C'est le même de mon nom. Tu sais, imagine. Là, c'est
incroyable.
Ça, c'est ma plus belle personne que j'ai rencontrée de ma vie parce que mes attentes, en plus, étaient tellement élevées. J'avais tellement d'amour pour elle. Elle a été encore plus hot que je pensais qu'elle
était. C'est le fun quand ça fait ça. Des fois, c'est l'effet inverse, mais quand ça fait l'effet positif, qu'elle améliore encore plus l'estime que tu avais d'elle, là, c'est spécial de rencontrer une idole. Ou, c'est toujours unique comme feeling.
Ouais.
Wow.
J'ai rejoué son entrevue, des parties de l'entrevue une fois. Ça a été le jour de sa mort. Puis après, j'ai toujours refusé d'en rejouer. J'ai toujours dit, les gens me disent, on peut toujours jouer ça. Non, je rejouais un moment de cette entrevue-là, puis c'était le jour de sa mort, c'est tout. Puis c'est dans mon coffre, ça reste là.
Tu me fais penser.
Si quelqu'un la joue, il ne m'aura pas demandé la permission.
Non, c'est ça, mais tu me fais penser à des voix uniques. Puis avez-vous déjà eu Amy Winehouse en entrevue, vous autres, ou c'est quoi?
Pas que je me souvienne, mais je ne pense pas qu'Amy Winehouse faisait beaucoup, beaucoup d'entrevues. Non. À part en Angleterre. Hein.
Ouais,
je pense qu'elle était plus... Il fallait qu'elle se remette sur pied. Mais c'est,
c'est triste.
Mais c'est triste. Je suis qui pour... Pas parce que pas mieux que personne d'autre, moi, dans la vie. Toutes fait des niaiseries, toutes fait des folies. Elle, puis je veux dire, la toxicomanie, l'alcoolisme, c'est le jeu, c'est des maladies, c'est une maladie. Là.
Ouais.
Ces gens-là n'ont pas besoin de se faire faire des reproches, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de se faire aider.
Elle avait tellement un talent unique, en plus.
Oui, ils n'ont pas besoin de se faire taper plus sa tête. Je veux dire, c'est connu maintenant médicalement que la toxicomanie, l'alcoolisme, ces choses-là, c'est une condition médicale.
Ouais, c'est spécial.
Oui, tu sais, le lendemain de veille tout le temps, mais est-ce que j'aurais aimé l'avoir l'entrevue? J'aurais aimé ça, mais je ne l'ai pas vu.
Non, ça aurait été spécial aussi. Puis, non, je sais, elle est morte le jour de ma fête, que je me rappelle. Ça a été marquant quand même. Mais ça a été tout un talent. Puis, il y a des voix de même qu'on entend à la radio, puis qu'on se rappelle encore de la première fois qu'on l'a entendu en voiture. Hein. Ça reste comme marquant. Il y en a une, toi, que tu as entendu pour la première fois pendant que tu as joué, tu as dit. Oh shit, là, on touche à de quoi, ça va être énorme. Là. On a vraiment découvert un gros hit.
Ben moi, j'ai eu ce feeling-là avec jeune Alanis Morissette.
Ah oui, ben oui.
Jack Delopé, là, avant, parce qu'avant, elle ne m'avait pas marqué que ses albums pop. Là. elle a chanté l'hymne national canadien à ses écoles à Ottawa, sans l'air qu'à la fin de l'année, elle était plus capable d'entendre chanter l'hymne national.
Ouais, elle a une voix quand même.
Une rumeur, les gens. Mais je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai toujours trouvé cette anecdote-là.
C'est drôle.
Ouais, mais Alanis Morissette, ça m'a marqué. Dolores O'Riordan, Cranberry, ça m'a marqué. Eddie Vedder, Pearl Jam, Chris Cornell, Soundgarden.
Ah, Chris Cornell. Grunge, quelle belle voix.
Le mouvement grunge m'a marqué. Mick Jagger, les Stones. Phil Collins. J'en ai plein qui m'ont marqué. Plein.
T'as traversé toutes sortes d'époques musicales aussi. Là. C'est spécial de voir tous ces moments-là. Puis, y a-tu des moments, exemple, la dernière
Jerry
question...
Jerry Boulet! Ma femme me regarde, Jerry Boulet m'a marqué.
Oui, faut pas l'oublier. Hey, non, d'ailleurs, c'est fou. Ça aurait pu être ton beau-père quand tu y penses. Il a dit que ça doit te faire bizarre d'imaginer ça, que tu aurais pu prendre une bière avec, à un moment donné, pensant à l'icône que Jerry a été. Là, ça doit être spécial quand même de dire ça. Quand tu penses à ça.
Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je l'ai connu, je l'ai vu. Tu sais, pour revenir à Guy Brouillard, Denis Fortin, qui ont déjà dit, j'ai vu Guy Brouillard pleurer une fois dans ma vie, c'est quand il a appris le décès de Jerry Boulet. Il paraît que c'est un gars extrêmement gentil, extrêmement fin, puis j'en doute pas.
J'en doute pas.
Chaque fois où on va quelque part, j'ai une histoire, c'est Jerry. C'est, tout le monde a des histoires avec Jerry.
Il a marqué tout le monde. Hein?
On trouve ça le fun, on trouve ça bien chiant. Puis ma femme, je regarde le nez, puis je trouve qu'elle a son nez. Fait que,
il y a une partie de lui. Chaque jour, tu as une partie de Jerry avec toi. c'est spécial. Ah, j'aurais rêvé de voir un duo, Éric Lapointe puis Jerry Boulet. Ça aurait été. Ça aurait été quelque chose, puis je pense lui-même l'a voix en entrevue aussi, que ça aurait été son rêve de carrière, malheureusement, qui n'aura pas pu se faire. Là, mais il y a une partie de lui, c'est son héritage, d'après moi, qui a continué avec les années. Écoute, c'est vraiment un podcast qui a été incroyable, François, je t'ai pris beaucoup plus de ton temps que prévu. Je te l'avais dit, il y en a qui ont plus de chaussettes que d'autres. J'avais le feeling que c'était ton cas. Fait qu'on en a profité en masse. Puis, écoute, merci beaucoup de nous avoir fait part de toutes tes belles anecdotes, ta belle carrière, des bons conseils aussi que tu as pour des jeunes. Merci de ton implication auprès des nouveaux animateurs radio, en fait. La prochaine relève, ça va y avoir une partie de toi en eux. Puis,
merci de le souligner parce que gênez-vous pas, ça me fait extrêmement plaisir. Hein. Même je trouve ça touchant de pouvoir redonner. Je suis content de le faire.
Ça paraît, tu es très généreux de ton temps. Tu t'es beaucoup dévoué pour le podcast. Je te remercie encore. Là, ça a pris deux jours qu'on puisse se pogner comme du monde. Puis vraiment, tu as pris à peine de m'appeler aussi. Ça, c'est vraiment apprécié. T'sais, c'est pas tout le monde qui s'implique autant, je pourrais dire. Là. Il y en a qui sont plus pressés que d'autres. Puis toi, c'est vraiment apprécié que tu aies pris ce temps-là. On va t'écouter encore mieux.
Je me suis même lavé deux fois pour m'apparaître au podcast.
Ça, tu me dis. J'écoute, j'espère qu'il va se laver deux fois. c'est vraiment apprécié. Écoute, on a au moins la chance d'avoir tes cheveux soyeux.
Tout est soyeux et rebelle.
Oui, exactement. Écoute, merci beaucoup. Puis dommage, on n'a pas eu la chance de voir ton palmier dans le deuxième podcast. J'ai eu la chance de le voir en primeur, ça va demeurer dans les... Ah, Colin! Je pense que c'est pour m'en sauver. Non, il est beau pour vrai. C'est un très beau palmier. Fait que, sur ça, un gros, gros merci, François, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Cool, merci, Antoine.
On se retrouve pour un troisième épisode avec Richard Turcotte pour la deuxième saison du Made in Québec podcast. Merci beaucoup.
Salut tout le monde.